Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 19h20, avec un trio, on peut dire, qui se connaît bien et qui s'apprécie. On commence par l'incontournable président de l'Institut de la Parole.
Ah, très bien, ma Caroline.
Génie absolu de la pensée universelle. Bonsoir,
non,
Philippe.
Non, franchement, il y a deux adjectifs qui sont, même pour moi, un peu trop hyperboliques, hein, franchement.
Lesquels ?
Absolu, universel. J'aime beaucoup l'universel dans la littérature, mais en ce qui me concerne, je ne crois pas être universel. D'ailleurs, vous me privatisez très souvent, mon cher Philippe.
Vous êtes un personnage de service public. On ne peut pas vous privatiser. Bon, et auteur d'un excellent livre, Libre propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Elle aussi illumine le studio par sa bonne humeur et par ses commentaires. Vous l'avez reconnu, Caroline Pilastre, chroniqueuse dans le domaine du handicap visuel.
Bonsoir, ça vous va ? Bonsoir Philippe, parfait. Bonsoir à tous. Et je ne pensais pas que tu ferais aussi mieux que Philippe. Hein. C'est pas possible.
C'était assez hyperbolique ou pas ? Parce que là, Philippe Bilger, en ce moment, il est dans les courbes. Il veut des hyperboles.
Ça me rappelle les cours de maths à l'époque. Je trouve que tu peux mieux faire, me concernant aussi en termes de compliments. Écoute, soyons mégalos.
Mais ce que vous avez dit de Caroline est totalement plausible. Tandis que de moi, c'est absurde.
C'est faux, vous êtes intemporel, Philippe.
Et pourtant, vous avez déjà commencé un calembour foireux avec Mathilde.
Non mais c'était pas mal. Hein.
Rien ne lui échappe.
Il écoute tout. Et enfin, on peut dire que c'est vraiment... Tiens, je vais être désagréable avec vous, Philippe Bilger. Aujourd'hui, c'est le maillon fort des vraies voix.
Mais c'est le plus...
Mais c'est sympa, hein, pour nous.
Il est le plus sérieux de nous trois, en tout cas, de très loin.
C'est logique, puisqu'il s'appelle Fort de nom de famille, et Boris, qui, comme chantait Jean Ferrat, était pauvre, mais lui, je pense, ne l'est pas. On est en tout cas, c'est une richesse de l'avoir parmi nous. Boris Fort, syndicaliste. Bonsoir Boris Fort.
Bonsoir Philippe et merci d'avoir cité Jean Ferrat parce que c'est le chanteur préféré de mon papa qui a fêté son anniversaire hier. Donc bon anniversaire papa.
Ah bah on souhaite, comment il s'appelle votre père papa.
Bernard Fort.
Ah bah comme le marathonien.
Oui.
Absolument, bah bon anniversaire Bernard, on peut dire Bernard quand voilà, même, plutôt que Monsieur Fort, c'est moins pompeux. Bon anniversaire, vous avez un fils génial et... J'ai la chance de bien le connaître et vraiment, je le pense. Nos deux débats du jour. À 17h30, mort de Jérémy Cohen, y a-t-il une montée de l'antisémitisme en France ? Vous voulez réagir le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. À 18h30, notre grand débat, montée de l'inflation, craignez-vous de vous appauvrir ? Même chose, vous voulez réagir le 0826-300-300 et les réseaux sociaux, c'est Zach qui vous accueillera au standard. Les vraies voix, on est à jour J-5 maintenant. Est-ce que vous voulez le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio qui bouge encore ?
Bien sûr.
Plus jamais.
C'est parti.
Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022.
Alors, comme maintenant, il ne faut pas citer les noms des candidats sauf à égalité parfaite, je vais citer tous les scores un par un. Et après, vous userez de la métaphore en disant telle candidate qui aime les chats ou tel candidat, je sais pas moi, qui a été élu président de la République en 2017. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut être dans la rhétorique de chef de gare qu'on nous impose. Rhétorique de chef de gare, c'est une expression d'un prof que j'avais quand on écrivait des âneries dans des copies. Donc, on se met au niveau. Alors, je vous donne les scores. Emmanuel Macron, là on le cite, perd un demi-point, nouvelle baisse à 27. Juste derrière, Marine Le Pen gagne un point à 23%. Jean-Luc Mélenchon gagne un point à 16,5%. On descend beaucoup plus bas. Valérie Pécresse perd un demi-point à 9,5%. Éric Zemmour perd un demi-point à 9,5%. On descend beaucoup plus bas. Yannick Jadot est stable à 4,5%. Fabien Roussel est stable à 3%. En dessous, Anne Hidalgo monte à 2,5%. Elle gagne 0,5%. Enfin, Jean Lassalle est stable à 2, Nicolas Dupont-Aignan perd 1,5 point à 1,5 et enfin, Philippe Poutou perd 1,5 point à 0,5 et Nathalie Arthaud reste stable à 0,5%. Je n'ai oublié personne, non c'est bon. Philippe Bilger, comme vous êtes un grand amateur de sport, je vais utiliser un terme de rugby, je sais que vous aimez beaucoup l'Ovalie. Comme on dit dans le Sud-Ouest... Pour dire que tout n'est pas joué, les juments n'ont pas encore tourné le dos au foin.
Ah, je ne connaissais pas cette expression.
Ah, bah, Pierre Albaladejo l'utilisait régulièrement, cher ami, à l'époque.
Je tourne rarement le dos en ce qui me concerne. Mais, j'ai parfois l'impression que le Rolling est un ennemi personnel par rapport à mes choix de citoyen. Mais ça va être autre chose.
Je le dirai à Frédéric Dabi, il va être content.
On est deux, Philippe, et vous savez, on se rejoint là-dessus.
Voilà. En réalité, Philippe, pardon de me répéter, ce qui est si passionnant chaque soir ne fait que confirmer une tendance tout de même qui semble se dessiner. Vous avez évoqué vous-même la baisse d'un président candidat, le rapprochement d'une candidate qui, en effet, pourquoi ne pas utiliser cette donnée factuelle, aime beaucoup les chats, et un troisième candidat qui prétend être dépositaire de l'insoumission et qui fait une très bonne campagne et qui monte tout en demeurant une distance respectable de la deuxième. Et puis je passe sur la lutte entre la républicaine, bien sûr, et celui qui veut reconquérir ce qu'il n'a pas encore conquis pour l'instant. Et les petits candidats disent sans aucun mépris ni condescendance. Ça devient passionnant, mon cher Philippe. Rien n'est plié, rien n'est joué, rien n'est figé. J'avais raison pour une fois, ceux qui disaient que cette campagne, elle est peut-être pas conceptuellement enrichissante, mais elle est très passionnante.
Donc les juments n'ont pas tourné le dos au foin, selon Philippe Bilcher, Caroline Pilastre, voilà. Sans citer personne. Hein.
Alors, ça va être très difficile de faire mieux que Philippe, parce que quel grand écart.
Mais Philippe Bilger, c'est tellement beau.
C'est notre président.
Ne troublez pas, évidemment. Ne troublez pas Caroline. Philippe, arrêtez maintenant.
Je suis déjà déstabilisée par vous tous, vous le savez bien. Non, mais que dire de plus, à part que, oui, peut-être que je me suis trompée depuis des semaines et que les jeux ne sont pas faits. Je suis la première à faire une introspection sur ce que je vous dis depuis un moment, en vous disant oui, c'est inintéressant comme campagne, les jeux sont déjà faits, tout est plié. Là, on se rend compte quand même que la candidate qui est la plus susceptible d'arriver au second tour face au président actuel est en train de le rattraper dans les sondages. C'est surtout ça, en fait, qui m'interpelle le plus. Parce que pour le reste, bon, bah, c'est fluctuant, mais à l'arrivée, il n'y a pas vraiment de changement.
Alors, surtout si je remonte
depuis quelques jours.
Si je remonte à une semaine, 5 jours ouvrables, le président sortant a perdu 1% quand la candidate dont vous parliez en a gagné 2.
C'est
donc
ça.
Les cours pourraient parfaitement s'intervertir.
Exactement.
Se croiser.
Et je me dis qu'on parle régulièrement de l'abstention, qui est le pire ennemi évidemment de la démocratie, puisque rappelons le chiffre, 30% de gens qui, jusqu'à présent, n'ont pas décidé d'aller voter. On ne parle pas des indécis, parce que moi je suis persuadée que les indécis iront pour la plupart voter et qu'en fonction de la sensibilité
alors,
de chacun.
Abstention prévue du jour, 29 plus 1,5%. Bon. Et la certitude, il y a encore 24% des gens qui peuvent changer d'avis.
C'est ça. Mais pour les abstentionnistes, peut-être que ça peut faire toute la différence, le fait que la candidate au chat se rapproche du président actuel, pour soit faire barrage au président actuel, soit pour lui faire barrage à elle. Et c'est surtout ça qui m'interroge le plus, parce que oui, on ne sait pas ce qui peut se passer. Dans un mois, peut-être que ce sera elle qui arrivera à l'Élysée.
Boris Faure.
Oui, c'est un peu cette compétition comme le Tour de France, finalement. Vous savez, ces étapes où on s'ennuie considérablement, on va dans le frigo ouvrir une bière, il se passe pas grand-chose.
Oui, en fait, les étapes de plat où ça se finit au sprint et où c'est toujours les mêmes qui gagnent.
Sauf que là, on s'était pas rendu compte, mais il y a une légère bosse sur la fin, et c'est le candidat qui a les guiboles, qu'on n'attendait pas trop. On va l'appeler, comment dire, La République, c'est moi, par exemple.
Oui.
C'est lui qui effectivement est en train d'animer la fin d'étape, parce que cette étape jusque-là elle était quand même un peu chiante à mourir, donc on doit les féliciter finalement. La démocratie, c'est un jeu qui reste ouvert jusqu'à la fin.
Vous avez dit que c'était une petite bosse, je vais faire une métaphore cycliste, comme ça il n'y aura pas de problème. C'est une petite bosse ou c'est plutôt une arrivée genre l'Alpe d'Huez ou l'Ussardidène au sommet d'un col et qui va être compliqué?
Je sais, comme il aime ce candidat-là a, je crois, une affection pour l'Amérique du Sud et qu'il y a de bons grimpeurs en Amérique du Sud.
Oui.
Moi, je vais vous dire...
Lucho Herrera, dans les années 80, le premier à avoir gagné l'étape du Tour.
Je vais vous dire que c'est l'Alpe d'Huez, effectivement, et que peut-être ça va réserver une grande étape, une grande surprise, qui sait.
Philippe Bilger, vous croyez qu'il pourrait y avoir une surprise déjà dimanche soir prochain? Il y aura une soirée spéciale sur Sud Radio, je vous le dis tout de suite, de 18h à minuit. On vous informera
plus tard.
De 18h à minuit. Les vraies voix, ce sera 22h minuit. Il peut y avoir une surprise pour vous, Philippe Bilger, très court.
Ah mais en tout cas, non seulement Caroline l'a évoqué tout à l'heure, mais je crois que à cause de la descente relative du président candidat, de plus en plus les jeux qu'on estimait faits sont battus en brèche et une hypothèse qu'on avait carrément évacuée, et s'il n'était pas au deuxième tour, apparaît, ressurgit. Est-ce que j'ai le droit de faire un peu de publicité, mon cher Philippe, ou pas du tout?
Si c'est pour un candidat, non. Si c'est pour une marque de maillot de bain ou de cornet de glace, il n'y a pas de problème.
C'est pour une publication excellente.
Allez-y, d'accord.
Celle de notre amie Elisabeth Lévy, dont le causeur, le dernier causeur, est formidable. Et notamment, il pose la question que je viens d'évoquer.
Vrai sujet, c'est la une. Très rapidement, vous croyez à une surprise, Caroline Pilastre et Boris Faure?
Alors non, je ne pense pas à une surprise type séisme. À mon avis, le président sortant sera au second tour, mais je ne suis pas sûre du résultat le concernant, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a des affaires qui dérangent beaucoup de Français. Le fait qu'il n'ait pas voulu débattre est aussi, à mon avis, un hic. Donc, il aura à répondre de certaines choses, et je pense qu'il y aura aussi de l'anti-bip qui pourra profiter au candidat face à lui.
Boris Faure, surprise possible?
Oui, moi je crois à l'insou miracle, vous voyez, avec...
On est fort quand même, hein.
Bon, c'est le cas de le dire, c'est son nom de famille. Les vraies voix, 17h15 à 17h30, notre premier débat, c'est beaucoup plus lourd. Décès de Jérémy Cohen, y a-t-il une montée de l'antisémitisme en France? Vous êtes 74,8% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec le génie Philippe Bilger, la génie Caroline Pilastre et le génie Boris Faure. C'est l'heure des tours de table de l'actualité.
Encore ces stupides actualités.
Ça dépend de la masse d'informations.
Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous.
Le tour de table
de l'actualité.
Et Philippe Bilger voulait nous parler d'un ancien président de la République. On peut le citer, il n'est pas candidat, il ne soutient personne.
En effet, Philippe, je voulais parler de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas la première fois que je dirais du mal de lui. Mais maintenant, j'allais dire, j'ai des motifs qui sont de plus en plus sérieux. Voilà un homme qui a affirmé qu'il n'avait pas été scandalisé par les sifflets qui, à deux reprises, lui avait été adressé, probablement parce que, évidemment, il n'avait jamais apporté son soutien à la candidate de son camp, et qui ajoutait qu'en réalité, il remerciait tous ceux qui, tout au long de sa vie politique, lui avaient apporté son soutien. Une candidate... celle de son camp ne pourra pas dire la même chose. Et au fond, je la trouve, celle-ci, très masochiste parce qu'elle continue à honorer, à célébrer Nicolas Sarkozy qui, jusqu'au dernier moment, lui a refusé son soutien. Alors il me semble, et ça n'est pas très original, que Nicolas Sarkozy va s'en sortir en spéculant sur un deuxième tour qui opposera le président candidat à une candidate qui aime les chats et qui peut-être, probablement, de mon point de vue, entraînera la victoire du premier. Et là, évidemment, Nicolas Sarkozy sera très à l'aise pour souhaiter la victoire, comme on dit, du républicain contre l'autre. Et il évitera... comme cela, tous les reproches pour n'avoir pas soutenu clairement, ostensiblement, vaillamment, courageusement, fidèlement, la candidate de son camp.
Caroline Pilastre.
Écoutez, vous connaissez mon honnêteté intellectuelle. Je suis un mélange initialement chez les LR de Nicolas Sarkozy et de Nathalie Kosciusko-Morizet, puisque j'étais sur leur primaire du handicap. Je suis extrêmement déçue du comportement de Nicolas Sarkozy. Il a le droit d'avoir une sympathie amicale pour le président. On le sait tous depuis des années, puisqu'il le conseille. Les femmes sont amies entre elles. Chacun est libre de faire ce qu'il veut à ce niveau-là. Mais à partir du moment où ça a été un président de droite, où il a mis au pouvoir la candidate actuelle chez les Républicains. Son devoir, c'était de la soutenir. Parce que quelle image est-ce que ça montre ? Déjà que ce parti va mal, et sur le point d'imploser, là, ça prouve qu'il n'y a aucun soutien de sa part. Et sous couvert de ne pas avoir supporté qu'elle ne dise pas que du bien de lui tout le temps dans les médias, parce que ça s'est ressorti aussi, c'est-à-dire que cette candidate n'a pas assez parlé de lui. Et je pense que malheureusement, pour le coup, c'est de la vraie mégalomanie, sauf que c'est sa campagne à elle, et qu'il l'avait choisie comme ministre à l'époque. Donc, en termes de loyauté, on se doit d'aller vers son camp, même si on n'y croit pas trop. Donc oui, ça n'est pas une attitude qui me plaît, et je suis exaspérée, autant que déçue de ce comportement. Et ça n'est pas du tout une surprise qu'il soutienne le candidat actuel, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, mais une fois de plus, l'exemplarité en politique était très peu présente lors de cette campagne.
Boris Faure, quand, si je résumais la pensée de Caroline Pilastre, c'est le tout à l'ego.
Oui, c'est
oh, excellent.
Très, très bonne.
Il a une mémoire folle pour les calembours des autres.
Et c'est un peu le jeu de Go, si vous me permettez. Donc,
joli, c'est un festival.
Moi, j'aime pas ça, la politique quand elle devient finalement une course de petits chevaux. Et comme vient de le dire Caroline, il y a une vraie déloyauté dans l'attitude de Nicolas Sarkozy parce qu'il est déloyal à ses idées. Pécresse et, pardon, excusez-moi, Madame...
la candidate des Républicains.
Voilà, la régionale de l'étape.
Voilà, bravo. Oui,
on reprend le Tour de France, oui.
La régionale de l'étape, voilà, incarne pour moi pleinement les orientations en fait d'un Nicolas Sarkozy quand il était président. Donc je ne comprends pas effectivement en tant que citoyen l'absence de soutien. Tout simplement.
Alors, comme vous avez cité le nom d'une candidate, je cite le nom des 11 autres, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean Lassalle. On se dit que l'Union soviétique, c'était quand même vraiment un modèle de non-bureaucratie et de libéralisme. Votre tour
c'est
de
vraiment du go fast, hein. On va très vite.
Je vais pas faire du go slow avec un truc pareil. Caroline Pilastre voulait parler des ruptures de stock de produits de première nécessité, la peur de la pénurie.
Et oui, je veux revenir sur le comportement de certains Français qui ont peur de la pénurie de produits alimentaires ou de l'augmentation des prix. Vous avez beaucoup de Français qui sont en train de faire des stocks. Flashback, souvenez-vous en 2020 des personnes qui se battaient pour du papier toilette, de la farine ou des pâtes.
Oui.
Nous n'étions pas en guerre et il a fallu perdre tous ces kilos pris pendant le confinement à la sortie du confinement. Donc ça a été encore une autre étape. Mais effectivement, pour vous donner un exemple...
Ça n'a pas été le cas de tout le monde pour perdre les kilos. C'est... Non, merci. Continue.
Tu parles de ton exemple personnel. Il y a le supermarché Métro, qui est un supermarché... un grossiste pour les restaurateurs qui a décidé de limiter les achats d'huile de tournesol aux clients pour ne pas que ce soit justement une rupture.
Alors, j'explique parce qu'une quantité industrielle de notre huile de tournesol vient d'Ukraine. On ne le savait pas, mais quand on fait des frites, c'est à l'huile ukrainienne,
et
très
oui,
souvent.
Et qui est en train d'être remplacée d'ailleurs par l'huile de colza. Et nous savons que l'Ukraine et la Russie sont les greniers du blé, donc ça va être une grave problématique suite à ce qui est en train de se passer avec la guerre en Ukraine. Donc je voulais faire un focus ce soir sur le fait que beaucoup de Français sont en train de revenir dans une espèce de psychose liée à cette pénurie pour l'augmentation de prix liée à forcément l'hyperinflation qui est en train d'arriver et le fait que y ait des ruptures mais liées à l'attitude justement des Français parce que la grande distribution rassure les clients en disant mais vous savez on a encore du stock pour les mois à venir donc ne vous précipitez pas comme en 2020. Donc voilà, je voulais rassurer la majorité des Français. Je comprends qu'on puisse faire des stocks si on a peur que les produits explosent en termes de tarifs, mais au niveau de la pénurie à proprement parler, on aura toujours pour le moment du riz, des céréales, de la farine et des pâtes. Donc ne vous inquiétez pas.
Philippe Bilger, ça vous inquiète, ces risques de pénurie ?
Non, je n'étais pas inquiet, mais Caroline m'a rassuré de manière anticipée, donc je la remercie. Et surtout, ce qui m'inquiétait, c'était le risque de pénurie de papier toilette, puisque Caroline a commencé par ce produit d'intime et première nécessité. Ça révèle un étrange tempérament.
Excusez-moi, c'est pas totalement inutile dans la vie. Non, Boris Faure.
Je vais être obligé d'ailleurs de me confesser. En fait, lors du premier confinement, c'est vrai que moi-même, je me suis précipité sur le papier toilette parce que c'était ma grande crainte. Et je me rappelle de ma grand-mère, ma mamie.
Je me disais, chez vous, le papier peint a une drôle d'apparence. Maintenant, j'ai compris.
Je me rappelle des anciens et de ma grand-mère en particulier qui avait connu la guerre et qui faisait des stocks, effectivement. Donc,
comme
c'est
au moment de la guerre du Golfe en 90.
À la fois, Caroline, vous avez raison, hein, y a une part d'irrationnel dans tout ça parce que la guerre est quand même loin. Mais d'un autre côté, on vit tellement des circonstances historiquement exceptionnelles qu'on ne peut pas totalement en vouloir à nos compatriotes qui prennent les devants.
Les vraies voix, 17h26, presque 27. Dans quelques instants, notre premier débat. Mort de Jérémy Cohen, y a-t-il une montée de l'antisémitisme en France ? Vous êtes 75% à dire oui. On va en débattre dans quelques instants avec Emmanuel Abramovitch, membre du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Vous voulez réagir ? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Biliger, Caroline Pilastre et Boris Faure. C'était une affaire classée en accident il y a un mois et demi. C'était Jérémy Cohen qui avait été renversé par un tramway à Bobigny. Enfin, renversé pas seulement parce qu'il n'avait pas regardé. Puisqu'une vidéo montre qu'il était en train de se faire tabasser par une bande de voyous et qu'il est mort en fuyant. Une agression qui pourrait bien naître une agression antisémite puisqu'une kippa blanche a été retrouvée sur les lieux. Une affaire qui fait énormément réagir sur les réseaux sociaux et reviennent sur le devant de la scène les crimes antisémites contre Sarah Halimi, Mireille Knoll ou encore Ilan Halimi. D'où notre premier débat. Mort de Jérémy Cohen, y a-t-il une montée de l'antisémitisme en France ? Et pour le moment, vous êtes 74,8% à dire oui. Avec nous, Emmanuel Abramovitch, membre du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Emmanuel Abramovitch, bonsoir.
Bonsoir, merci de votre invitation.
C'est
bonsoir.
Tout à fait normal. Comment expliquer que cette affaire ait mis un mois et demi à sortir ? L'omerta ?
Pas uniquement. Nous sommes en réalité dans un processus long qui commence par une incapacité du personnel politique à nommer les choses. Et puis, il y a, parmi vos collègues, des gens qui déforment l'histoire de l'antisémitisme en France et donc de l'histoire de France. Et je vais illustrer tout de suite. La majorité de vos collègues disent que les premiers attentats antisémites, eh bien, c'est 2012 avec cet infâme français, mais rat, en trois mots. Vous avez bien compris, un français, mais rat. En réalité, non. Le premier attentat antisémite en France, c'est 1980, et c'est l'attentat de la rue Copernic.
Oui.
Il y a quelque temps après, un autre attentat dans une école juive de Lyon. Et puis ensuite, il y a la rue des Rosiers. Et ensuite, il y a la rue de Rennes. La rue de Rennes, c'est Tati qui est visée. C'est aussi Marx et Spencer. Donc, il faut comprendre cette montée de l'antisémitisme par une non-prise de responsabilité du personnel politique qui, n'assumant pas, pour des raisons que nous pourrions qualifier parfois d'antisémites, le fait qu'il y a en France des agressions spécifiques contre des juifs. Donc, cette absence de discours concret, réaliste, empêche de prendre de vraies décisions, de mener un vrai discours, et par conséquent, vous avez parmi les 62%, par exemple, de musulmans qui considèrent que les lois de la charia sont supérieures à la République, qui n'ont aucun frein. La porte est aussi grande ouverte sur Internet, où la loi se refuse d'évoluer. C'est-à-dire qu'on est capable de rendre responsable un rédacteur en chef d'un journal pour des propos néfastes, anti-républicains contenus dans le journal, mais sur le net, vous avez le droit de raconter qui vous voulez, ce que vous voulez, d'attaquer n'importe qui de façon anonyme et sans aucun risque. Donc la montée de l'antisémitisme est un processus long qui a des bases solides.
Philippe Biliger.
Il est évident que l'antisémitisme progresse en France et dans les propos et dans les actes et dans les violences. Et l'exemple que vous avez cité, Philippe, dans le 9-3, avec ce père admirable qui finalement a, par son acharnement, permis de débusquer la vérité dans la tragédie de la mort de son fils, est tout à fait révélateur de ce qui se passe à l'heure actuelle. Je suis frappé de voir à quel point la dénonciation verbale, l'indignation morale n'ont pas d'effet immédiat sur la réalité des agressions contre la communauté juive. Et je m'interroge depuis des années en me demandant si au fond il n'y a pas de la part de tous les pouvoirs une sorte de confort intellectuel et politique qui consiste à dénoncer éthiquement en ne se souciant guère de l'effectivité de la lutte pénale, parce qu'il est tout de même invraisemblable que plus on dénonce, moins l'antisémitisme opératoire diminue. Donc c'est là-dessus que je voudrais avoir le point de vue de notre invité. Et à la question de Sud Radio, il est évident que l'antisémitisme ne cesse pas de progresser et que ça devrait interpeller le citoyen non seulement sur le plan de la démocratie, mais sur le plan de la répression pénale.
Emmanuel Abramovitch.
Bien sûr, vous avez mis le doigt sur le vrai problème qui nous ramène vers notre autorité de tutelle, celle que nous avons élue ou celle que nous avons portée pour être juge, procureur ou magistrat. À partir du moment où ces gens ne considèrent pas qu'il est anti-républicain au premier sens, au premier degré du terme, que d'agresser quelqu'un en fonction et uniquement en fonction de sa religion, à partir du moment où on a du mal à juger ce crime, alors la porte, la voie est ouverte. C'est le même processus en matière de banditisme. À partir du moment où un bandit sait qu'il n'ira pas en prison s'il fait telle ou telle pratique, alors il s'en donne à cœur joie. Et hélas, c'est la même chose pour l'antisémitisme. Aujourd'hui, à quoi voulez-vous condamner une peine ? Je vais vous donner un triste exemple qui va vous donner une idée de où nous en sommes aujourd'hui. Je vais vous parler, sans la nommer, bien évidemment, d'une dame qui a travaillé, qui a cotisé, qui est aujourd'hui retraitée. Elle est handicapée à 80%. Elle est la seule femme juive dans son immeuble de Perpignan. Elle est harcelée depuis des années. Quand je dis harcelée, messieurs, dames, ça veut dire qu'on lui crache dessus. Ça veut dire qu'on l'insulte. Ça veut dire qu'on voudrait bien la pousser, la faire tomber avec son déambulateur. Elle est arrivée chez nous dans un état psychique, psychologique difficile, vous pouvez imaginer. Eh bien, c'est nous qui avons pris les choses en main auprès de la police, de la préfecture, de son bailleur pour la faire reloger. Par qui sommes-nous aidés ? Par personne. Par qui cette femme est-elle aidée ? Par personne. Et pourtant, son cas est connu depuis plusieurs années. Quand je vous dis cela, je suis sérieux. Ça veut dire qu'il y a déjà plusieurs plaintes et que certaines sont instruites par un procureur. Est-ce que cette situation est normale pour cette femme ? Et si je vous disais que cette femme pourrait être notre grand-mère, comme le fut ou comme aurait pu l'être Madame Halimi ou Madame Knoll, dont nous connaissons la triste fin ? Effectivement, la situation est difficile parce que nous n'avons pas de contact, nous n'avons pas de référent dans les préfectures. Et si cette personne ne connaît pas notre numéro, ne sait pas nous joindre, elle est livrée à elle-même dans un océan. Elle est seule dans un immeuble où pratiquement tout le monde l'agresse et personne ne l'aide.
C'est absolument hallucinant. Caroline Pilastre.
À chaque période de crise, en l'occurrence là, de la crise sanitaire, il faut un bouc émissaire. Et bien évidemment, pour répondre à ta question, Philippe, il y a une résurgence de l'antisémitisme. Monsieur le disait très bien, les actes d'antisémitisme ont lieu depuis plus de 40 ans. Beaucoup de Français ont tendance à l'oublier. Alors, on revient sur 2006 avec l'affaire d'Ilan Halimi. Après, il y a eu Sarah Halimi, Mireille Knoll. Vous savez que la France est un des seuls pays européens où on tue un juif parce que juif. C'est une réalité, sans parler du terrorisme dans sa globalité. Moi, ce que j'aimerais vous demander, monsieur, c'est à votre avis, parce qu'on sait très bien que la population de confession juive quitte les banlieues pour venir habiter dans Paris, prendre le moins de risques possible. Actuellement, vous n'avez plus un juif dans le 93, puisque s'ils sortent avec la kippa, ils ont de grandes chances de se faire agresser. Beaucoup partent en Israël, à cause de cette raison, ou au Canada. Donc, il fuit la France. Il y a moins d'1% de juifs en France. Faut quand même le rappeler et remettre les choses dans le contexte. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi, depuis tant d'années, sachant qu'il y a quand même beaucoup de juridictions contre le racisme, enfin, on peut porter plainte, c'est un délit le racisme, ça n'est absolument pas une opinion. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel laxisme avec la question de l'antisémitisme? Parce qu'il faudrait une tolérance zéro. Je vous prends juste un petit exemple. Quand un candidat à la présidentielle s'est permis il y a quelque temps d'insulter un autre candidat de juif de service, est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, justement, ça ne favorise pas un antisémitisme primaire, une banalisation? Donc voilà, moi je voudrais vous entendre sur la question du laxisme politique. Est-ce que c'est une question uniquement d'électoralisme ou une question idéologique? Et qu'est-ce que vous pensez de la tolérance zéro sur tous ces actes-là?
Emmanuel Abramovitch.
Ça commence par de l'électoralisme, effectivement, et je vais revenir un petit peu en arrière. N'y a-t-il pas une famille politique qui avait une influence nationale jusqu'à il y a peu, qui, au regard de ses difficultés partisanes, a décidé de remplacer le vote ouvrier qu'elle perdait par un vote maghrébin? C'est une réalité politique que nous n'avons pas voulu regarder. Mais ce renversement d'alliance ou cette nouvelle alliance s'est quand même déroulée. À partir de là, vous voulez remplacer un électorat qui vous fuit par un autre électorat. Je fais bien évidemment allusion à l'électorat musulman et je me dois d'ouvrir une petite parenthèse que vous m'accorderez, je l'espère. Tous les musulmans qui respectent les règles de la République, comme les chrétiens, comme les juifs, comme les protestants, ont leur place en France.
Donc, bien évidemment, c'est bien de préciser.
Ça va toi.
Non, mais il était important que vous me permettiez de le préciser pour que je puisse continuer mon propos et qu'on ne lui prête pas un vernis que je ne lui mets pas. À partir de là, je tiens à vous dire qu'effectivement, ce renversement d'alliance, ce changement d'électorat, eh bien, il faut caresser son nouvel électorat dans le sens du poil. Alors, comment voulez-vous, puisque vous voulez remplacer le vote ouvrier que vous avez perdu par un nouveau vote musulman, dire « Oh, vous savez, les musulmans, c'est pas bien. Il y a parmi vos enfants des gens qui se conduisent très mal. Vous risquez de les perdre. » Et ils ne veulent pas les perdre. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler les slogans, les campagnes de communication pro-palestinienne qui, entre autres, encourageaient le Hamas et pendant un moment le Hezbollah. Je vous rappelle que ces braves gens qui ont tout compris, qui connaissent mieux le monde que personne, nous expliquaient tous les crimes. Je me permets de vous signaler que quelques jours après la tuerie de Toulouse, il en est certains sur le service public qui ont osé et donné des circonstances atténuantes. Alors, on en est là pour vous expliquer, si vous voulez, ce double discours politique. Il y a longtemps, parce qu'il a fait partie d'une stratégie politique.
Boris Faure.
Oui, en fait, pour moi, des antisémitismes qui se superposent avec l'antisémitisme idéologique, j'allais dire malheureusement classique, de l'extrême droite. Et on a maintenant, ça a été dit par Caroline, un antisémitisme de crise sanitaire, qui en fait accentue le complotisme. Ça, c'est terrible. Et puis, il y a l'antisémitisme de rue, l'antisémitisme très lié à de la délinquance. C'est-à-dire, on voit une personne juive avec une kippa, on va lui mettre un coup de poing. Voilà. Tout ça, évidemment, ça appelle des sanctions, ça a été dit, tolérance zéro, enfin on peut utiliser tous les termes qu'on veut, c'est simplement sanctionner ce qui doit être sanctionné très rapidement, sans délai. Après, moi je crois à l'éducation, parce que sinon je ne travaillerai pas pour une agence qui se... dans le monde entier, à des lycées. Nous gérons des lycées français dans le monde entier. Et je pense que rappeler que par l'instruction civique, on peut déconstruire les idées reçues, les idées fausses, toutes les cibles qu'on met sur les personnes juives. Voilà, je crois que l'éducation peut aussi aider, on ne l'a pas dit, mais il faut aussi en passer par là.
Emmanuel Abramovitch, l'éducation, je mets un petit mot en plus à ce que disait Boris Faure à l'instant. L'éducation, c'est compliqué, sachant que dans certains quartiers, on n'ose même plus enseigner la Shoah, par exemple.
Alors, c'est très compliqué, là encore, depuis plusieurs années. Là encore, le phénomène s'est instillé petit à petit, au fur et à mesure des jours. On n'est pas arrivé à une école publique sans juifs dans la Seine-Saint-Denis du jour au lendemain. Il y a d'abord eu un discours ambiant que je vous ai décrit tout à l'heure. Il y a eu aussi des agressions entre jeunes auxquelles on n'a pas voulu donner le caractère qu'elle avait vraiment. C'était des bagarres entre élèves. Et puis, il y a aussi quelque chose qui nous fait beaucoup de mal à nous, Français juifs, c'est la pratique par un certain nombre de politiques, de philosophes, de journalistes et d'autres, de pseudo-journalistes, la pratique de l'amalgame. Car quand une démocratie se défend, et je vais prendre l'exemple d'Israël comme par hasard, mais quand ils ont un conflit frontalier qui les regarde, vous avez dès le lendemain une hausse des actes antisémites contre des particuliers sur tout le territoire. Alors voilà ce qu'il en est aussi du discours des politiques, mais aussi du discours à l'école. Il y a une idéologie à l'école qui a fait que la pédagogie s'est dénaturée. On n'enseigne plus l'éducation civique comme avant. Donc, on a un délitement du discours et donc du contenu éducatif, ce qui nous donne ces chiffres absolument terribles où vous avez des gens interviewés à 62% qui disent que leurs lois religieuses sont supérieures aux lois du pays qui les accueille ou qui leur permet de vivre ou qui, voire, les nourrit. C'est hallucinant. Et intellectuellement, c'est tout simplement incohérent. Donc, on en est là parce que effectivement, il y a besoin de reprendre en main ce que nous sommes, des êtres doués d'un minimum d'intelligence, cartésiens un minimum, pragmatiques un minimum, capables de nommer les choses. Et quand on est capable de nommer les choses, on est capable de respecter les gens. Et l'inverse peut fonctionner aussi, probablement.
Notre premier débat, avant de donner le score et de faire une pause, une info qui tombe à l'instant, le motif antisémite de l'agression n'est pas établi à ce stade, selon le procureur de Bobigny. On va suivre ça, bien évidemment, de très près. Notre premier débat, décès de Jérémy Cohen. Y a-t-il une montée de l'antisémitisme en France? Ça monte petit à petit. Vous êtes désormais 76,2% à dire oui. À notre tour, on ira directement au 0826-300-300, puisque le sujet fait réagir.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Boris Faure. Notre premier débat d'essai de Jérémy Cohen. Y a-t-il une montée de l'antisémitisme en France? Et vous êtes 76,3% à dire oui sur Twitter. Ça réagit beaucoup au 0826-300-300, direction Arles. Bonsoir Bruno.
Bonsoir
Bruno. Est-ce que pour vous, il y a une montée de l'antisémitisme en France?
Il y a une montée de ce que les médias racontent. Tout le monde se précipite. Un pauvre jeune est mort percuté par un tram, agressé juste avant, donc, et dans sa fuite, a été donc tué. Mais rien ne laisse penser ou supposer pour l'instant qu'il y a un acte antisémite. Alors, je ne sais pas si ce jeune, c'est d'une tristesse infinie. Même l'avocat qui s'est exprimé de la famille n'a pas parlé de quoi que ce soit. Je remarque juste une chose, on commence à parler d'actes antisémites au moment de la veille d'une élection. C'est l'impression que ça me fait. Alors qu'il y a des actes racistes absolument partout. Si je ne me trompe, en 2019, le gouvernement communiquait encore par acte raciste ou anti-religieux un nombre dont les chrétiens faisaient étaient au summum. Ensuite, il venait les musulmans et les actes antisémites. Mais cette année, non. On a parlé d'actes en général, ce que je trouve plus juste, parce qu'on n'a pas à donner obligatoirement quoi que ce soit par religion. Il y a un acte, s'il est avéré par une enquête, que l'on en parle. Pourquoi n'en a-t-on pas parlé avant, alors que ça s'est produit en février? Alors, mais là, maintenant, alors je termine juste une chose. Il y a eu un acte réel antisémite qui s'est produit. Il y a un petit juge de service qui se présente aux élections. Qui en a parlé?
Vous voulez parler des propos. Alors, on n'a pas le droit de citer les noms des candidats.
Je n'en ai pas cité. J'ai juste parlé du petit juge de service. Mais personne n'en a parlé.
On en a parlé tout à l'heure. C'était Caroline Pilas qui l'a dit. C'est un autre candidat qui avait utilisé ce mot pour un candidat avec les règles de l'ARCOM, l'excès. Ça, c'est très compliqué. On ne peut pas citer de nom. Donc, c'est pour ça que. Mais Caroline Pilastre en avait parlé. C'est pour ça.
Caroline Pilas en a parlé. D'accord, c'est très bien. Mais je veux dire, au niveau des candidats eux-mêmes, je veux dire, ça n'a pas fait de foin.
C'est vrai que ça peut faire de foin. Merci beaucoup Bruno de Arles. On va faire réagir tout de suite Emmanuel Abramovitch. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Bruno ? Parce que c'est vrai que le terme juif de service, ça aurait été tenu par un autre camp politique, ça aurait probablement fait un tollé, non ?
Mais ça répond à ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire la démission des intellectuels, des vrais journalistes, des juristes et des politiques qui, chacun dans sa petite chapelle, pour des raisons différentes, a décidé qu'il était plus opportun pour lui de ne pas réagir, alors qu'évidemment, c'est une insulte. On ne traite personne de petit juif de service. C'est une insulte! Alors, vous vous rendez compte où nous en sommes dans notre société ? Et pourquoi je ne parle plus d'hommes politiques, mais de personnel politique ? Parce que il est intolérable d'accepter ces mots-là qui sont la porte ouverte à la passe, à l'acte suivant, c'est-à-dire physique. Qu'est-ce que vous voulez ? Comment voulez-vous insulter quelqu'un quand vous l'avez traité comme ça ? Quelle est l'étape suivante ?
On retourne au 0800 26 300 300. Ça fait beaucoup réagir. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir.
Vous avez été agressé, vous ? Vous avez été agressé et vous avez passé 5 semaines dans le coma.
Oui, mais c'est pas par rapport à mon expérience que je vous appelle. C'est qu'en fait, quand j'entends ça, évidemment, vous verrez, dans quelques jours, il y a 9 chances sur 10, voire 99 sur 100, que ce soit un acte, malheureusement, d'un islamiste radical, comme ça l'est 9 fois sur 10. Quand j'entends parler d'antisémitisme, oui, il y a beaucoup de cas en France d'islamistes radicaux antisémites, c'est évident, depuis des années, avec des actes et beaucoup de violence. Maintenant, je trouve que le débat est trop serré. En fait, ça dépasse déjà de loin cela. C'est-à-dire que, pour moi, j'ai eu affaire à des islamistes radicaux qui s'en prennent à tout ce qui n'est pas pro-islam. Et aujourd'hui, y compris dans les journalistes, les gens ont peur. Les journalistes, les gens dans la rue ont peur des islamistes radicaux. Et quand ils voient des musulmans excités, entre guillemets, ils changent de trottoir. Pourquoi ?
Ben, on va donner la parole à Emmanuel Abramovitch. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Olivier, Emmanuel ?
Alors, je vais vous faire une réponse qui va vous surprendre, j'espère. Mais les premiers silencieux qui sont terrorisés, comme le dit ce monsieur,
Olivier,
ce sont les musulmans, pratiquants ou pas, qui sont terrorisés et n'osent pas descendre dans la rue quand un des leurs a commis un crime ignoble. Les gens dont nous parlons, ce sont par exemple les jeunes filles qui sont obligées de se voiler. Ce sont les jeunes filles qui sont obligées de partir avec un sac dans lequel il y a les vêtements qu'elles vont porter à Paris, mais qu'elles ne peuvent pas porter à Bobigny, à Saint-Denis ou à Garges-lès-Gonesse. Alors, je voudrais revenir un tout petit instant sur effectivement cette qualification d'antisémitisme ou pas à ce crime. Aujourd'hui, le BNVCA, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, qui est présidé par Samy Gozlan, qui est un ancien commissaire et qui a par conséquent de nombreux contacts, aussi bien dans la police que dans la justice, nous n'anticipons pas le travail des enquêteurs ni le travail de la justice. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le BNVCA n'a pas non plus qualifié ce crime d'antisémite. Potentiellement, on peut penser qu'il l'est, mais nous ne l'affirmons pas, car c'est le travail de l'enquête et de la justice de le dire. Il va sans dire que si nous avions, avec le temps, des éléments probants et que l'enquête s'orientait dans une autre direction, là, nous saurions nous faire entendre. Mais à ce stade, nous n'avons pas les éléments qui nous permettent d'avancer que c'est un crime antisémite, ce qui ne signifie pas qu'il ne l'est pas.
Boris Faure, vous réagir, mais très court, il nous reste une minute.
Très courte. De manière courte, je dirais, plus on aura de laïcité, moins on aura d'antisémitisme. En fait, on n'a pas lâché le mot de laïcité aujourd'hui. Je ne veux pas ouvrir un autre grand débat, mais la laïcité, c'est la liberté de conscience. Et c'est dans la rue aussi la liberté de porter des signes ostentatoires religieux dans la rue. Donc voilà, je pense, plus de laïcité, il y aura aussi moins d'actes d'antisémitisme.
Et est-ce que... Oui, Philippe Bilger ?
Non, non, là je trouve que notre ami Boris Faure est un peu irénique. Hein. Je ne crois pas que c'est en parlant de laïcité qu'on réduira les propos et les violences antisémites. Je crois que c'est enfin par une répression exemplaire, quand on aura eu la chance, et je réponds à notre invité, d'interpeller les auteurs d'actes et de propos antisémites. La justice est aussi indignée que vous, mais encore faut-il qu'elle ait les auteurs de ces transgressions.
Emmanuel Abramovitch, le mot de la fin, allez, en 20 secondes.
Alors, en 20 secondes, je vais vous donner un exemple. Ça s'est déroulé à Paris il y a 15 jours. Il y avait sur la voie publique, Fontaine des Innocents, une association pro-palestinienne qui appelait à la libération d'un terroriste, Georges Ibrahim Abdallah. C'est un assassin. Il y a des membres des familles de ses victimes qui sont encore vivants, qui subissent la mort de cette personne, mais vous avez quand même des gens qui obtiennent de la préfecture de police de Paris l'autorisation de manifester pour appeler à sa libération. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal aussi que ces mêmes manifestants, au même endroit, à côté du Forum des Halles, appellent au boycott, dénoncent des violences? Si c'est l'importation en France d'un conflit étranger. Qu'est-ce que ça veut dire que ni le préfet, ni personne ne s'oppose à ce... Je ne suis pas contre la possibilité de dire ce que l'on veut et de manifester, mais pas de demander la libération des terroristes et de faire une stigmatisation entre les habitants d'un pays et ceux d'un autre pays.
Merci beaucoup Emmanuel Abramovitch, membre du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, verdict sur Twitter. Décède Jérémy Cohen, y a-t-il une montée de l'antisémitisme en France? Vous êtes 76,3% à dire oui. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix sur Sud Radio avec l'empereur de l'Institut de la Parole, auteur de Libres propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie, dont on espère que cet ouvrage ne tombera jamais en pénurie. Je peux me passer... de lait, de riz, de pâtes, mais surtout pas du livre de Philippe Bilger qui m'accompagne depuis des mois. Bonsoir, Imperator Bilgerum.
Bonsoir, animateur Davido Pavitch, surtout pas Davidovitch.
Quelle déclaration d'amour, c'est magnifique.
C'est un peu l'impératrice des vraies voix, Caroline Pilas.
La Sissi des vraies voix,
la j'adore. La Sissi des vraies voix, oui. La Sissi des vraies voix.
J'espère que je finirai pas comme elle, quand même.
Ah oui, c'est elle, une fin tragique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Chroniqueuse
mais
dans le domaine du...
Oui. Une personnalité extraordinaire.
Je vous retourne le compliment.
Parle de Sissi, bien sûr.
Ah merci, mais Caroline... voilà. C'est l'habitude de complimenter dans cette émission, hein. Je vous parle plus, Philippe.
Et ben vous êtes la Romy Schneider des vraies voix. Caroline Pilastre, chroniqueuse dans le domaine du handicap visuel.
Non, consultante.
Consultante, pardon.
Je suis chroniqueuse et consultante.
Consultante dans le domaine du handicap visuel, autant pour moi. Et enfin, bon, lui c'est l'empereur fort. Boris fort, le tsar Boris, ça vous va?
Merci, ça me va. On est avec Sissi et Fifi, si vous le permettez, Philippe Bilger. Fifi et Sissi.
Ah oui, je le permets.
Mais écoutez-vous, voilà. Ça va être bobo, comme vous êtes de gauche, voilà, ça tombe très bien. Boris fort.
Ça fait de la confusion, bobo, quand même, hein, dans notre société. Hein.
À 18h30, notre.
Alors, Boris, si vous me donnez un surnom, faites-moi plaisir. La prochaine fois, c'est plutôt Filou. Filou.
Ah, mais j'ai toujours
quand
pensé.
Quand j'étais au collège, c'était plutôt Filou, où je vais vous le tenir, on m'appelait Bibil.
Ah oui.
Parce qu'évidemment, Bilger, Buffalo Bill, tout ça.
Ah, c'est bien.
Et je tirais plus vite que mon ombre. Hein,
il est en forme, notre Philippe Bilger. À 18h30, notre grand débat, un débat lourd aussi. Montée de l'inflation, craignez-vous de vous appauvrir? Vous êtes 93,6% à dire oui. Vous êtes prêts? Allez. Bibil, Caro et Bobo.
Prêt pour
quoi? Pour le tour de table.
Ah bien sûr, pardon, c'est pas grave.
Les vraies voix Sud Radio.
Et votre tour de table de l'actualité, mon cher Boris, c'est vous qui le concerne, parce que vous allez faire la une des médias après-demain. Et bien malgré vous d'ailleurs.
Oui, merci Philippe. Le 7 avril à 13h30 sera en effet jugé au tribunal judiciaire de Paris les violences volontaires avec armes par destination qui ont failli me tuer voilà 5 ans. J'ai reçu en effet deux violents coups de casque à la tête le 30 août 2017 en pleine rue et devant plusieurs témoins. Mon agresseur, MJ Delguérab, était parlementaire macroniste. Il est d'ailleurs toujours député et il est aujourd'hui en campagne de réélection sous les couleurs de la majorité. Après les coups, mes jours étaient en danger et j'ai été opéré en urgence d'une hémorragie cérébrale. J'ai passé 72 heures en réanimation et j'ai été arrêté pendant près de 2 mois avant de pouvoir reprendre le travail. J'ai désormais une cicatrice d'une 15 cm sur le crâne et des dommages physiques et psychologiques durables. J'ai dû faire, malheureusement, un pas de côté vis-à-vis de la politique. Tout bêtement, j'étais dégoûté. Mon agresseur a utilisé tous les ressorts d'une défense diffamatoire et dilatoire pour retarder le jugement jusqu'à ce jour. J'ai été accusé contre toute logique de racisme et même de l'avoir agressé. Mais la justice avance et les faits attestés par l'instruction sont accablants. Le procureur parle même de violence extrême dans son réquisitoire, comme les 3 témoins et les images de vidéosurveillance qui montrent face à moi un homme d'1m90 en fureur. Mon agresseur m'a poursuivi après le premier coup de casque à la tête, m'a asséné un deuxième coup de casque alors que j'étais accroupi et il s'apprêtait à emporter vraisemblablement un troisième quand il a été arrêté par les passants. Alors que j'étais sonné et au sol, il a continué à m'invectiver. Et puis, j'ai été évacué. J'étais entre la vie et la mort à l'hôpital Beaujon. Il a utilisé la diffamation sur les réseaux sociaux, faisant de moi un agresseur raciste. Rien ne l'arrête, cet homme, décidément. Les faits se sont pourtant déroulés en pleine rue, devant le bar Le Broca. Les témoins ont attesté de mon calme, de l'absence d'agressivité. La police était là en moins d'une minute. C'était un flagrant délit. Une agression brutale sur un opposant politique. Alors j'ai attendu patiemment, stoïquement. Je n'ai cessé de ne réclamer qu'une seule chose, la justice. Je réclame aujourd'hui une peine exemplaire pour cet homme qui m'a agressé. J'ai confiance dans la justice de mon pays. La République exemplaire a été promise par Emmanuel Macron. Elle ne peut souffrir de la perception réelle ou supposée d'une impunité possible ou d'un déni de réalité politique. L'agresseur doit être tout simplement puni par les juges et il doit être écarté de toute responsabilité politique par ceux qui, jusque-là, l'ont protégé politiquement. Je publierai le 28 avril chez VA Édition Coup de casque, un essai sur la violence en politique. Je remercie tous ceux, et ils sont nombreux, toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenu jusque-là. Et avec mes avocats, Patrick Lucman et Yvan Terrel, je donne rendez-vous à mon agresseur jeudi au tribunal de Paris. Merci.
Philippe Bilger, beaucoup d'émotions.
Alors, oui, en même temps, Boris, puisqu'on se dit tout, là, vous avez exprimé un point de vue qui relève de votre cause strictement personnelle. Hein, et donc, vous anticipez sur un débat qui aura lieu dans très peu de temps. Mais il est évident, parce que Philippe David en avait déjà parlé à plusieurs reprises, que je ne doute pas de la réalité de vos propos. Et si j'ai besoin de vous rassurer, je peux vous dire que cette odieuse agression contre vous, avec les propos diffamatoires que votre antagoniste a proférés, non, il faut le reconnaître, puisque nous sommes dans les vraies voies depuis quelque temps ensemble, n'ont pas du tout altéré votre quotient intellectuel. Donc ça, c'est assez rassurant.
Caroline Pilat, c'est bien de mettre de la bonne humeur. Toute notre solidarité avec Boris, évidemment.
Évidemment, un total soutien pour ce que tu as vécu, pour ton témoignage qui est extrêmement poignant. Mais la question que je me pose de manière rationnelle, c'est pourquoi est-ce que ça a pris aussi longtemps avant d'être traité, avant qu'il y ait un jugement? Voilà, je vais jouer la carte de la naïveté, parce que bien évidemment, je n'en pense pas moins. Mais est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire là-dessus, ou est-ce que tu as envie
que je fasse la conclusion, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je citerai Jean de La Fontaine, « Selon que vous serez puissant ou misérable, etc. etc. » La conclusion, c'est celle de Michel Sardou. Vous êtes d'accord avec cette conclusion ?
Oui, je suis d'accord. La justice se hâte lentement, mais comme la tortue, elle triomphera.
Les vraies voix, 18h15, pile dans quelques instants, on va encore parler d'un sujet lourd, les hommes battus, une réalité oubliée. On va avoir avec nous Jean-Paul Récapet, trésorier et permanent téléphonique de l'association. En Île-de-France, ce sont 20% des cas de violence conjugale qui concernent les hommes. Restez bien avec nous et les vraies voix sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Boris Faure. C'est un sujet tabou, les hommes battus. Il y a tout un dossier aujourd'hui dans Le Parisien, aujourd'hui en France, puisqu'on parle souvent des violences intrafamiliales, mais en Île-de-France, 20% de ces violences ont pour victime des hommes. des hommes jugés plus sévèrement pour les mêmes faits que les femmes. Nous sommes en compagnie de Jean-Paul Récapet, trésorier et permanent téléphonique de l'association SOS Hommes Battus. Jean-Paul Récapet, bonsoir.
Bonsoir.
20% d'hommes parmi les victimes de violences conjugales. Quand on entend tous les discours tenus à ce sujet, on n'imagine pas un tel chiffre.
Alors le chiffre, je dirais, est un peu faux parce qu'on parle, si on prend les scientifiques, de 50%. On serait, il y aurait autant d'hommes battus, d'hommes violents que de femmes violentes. C'est tout. La violence fait partie de l'être humain.
Alors, justement, dans ce dossier, dans le Parisien, il y a on souligne la différence de traitement devant les juges. Est-ce que quelque part, un homme n'est pas plus facilement présumé coupable et une femme plus facilement présumée innocente pour ce type de dossier ?
Ah, tout à fait, tout à fait. Un homme, si vous voulez, c'est dès qu'on va à la gendarmerie, à la police, le procureur, tout le système, un homme est coupable, une femme est victime. Philippe. Et on reste toujours dans ce système-là. Tout est orienté dans ce système-là.
Philippe Bilger.
Alors, je trouve que la formidable organisation des vraies voix est parfois un peu agaçante. Parce que vous m'avez confisqué le sujet que j'avais l'intention de proposer dans deux jours, mon cher Philippe.
Et bam.
Et donc, vous lisez trop bien les journaux également.
Oui, mais je lis votre pensée aussi. Hein.
Pour être là sérieux, je suis tout à fait heureux de voir traiter ce sujet. Parce que, bien sûr, les violences commises sur les femmes sont scandaleuses de la même manière que les véritables violences commises sur quelques hommes. Vous avez rappelé les statistiques, Philippe. Mais, d'une certaine manière, je suis encore plus frappé par les violences commises sur les hommes pour la raison suivante. C'est que le profil habituel de l'homme dans l'esprit public est assimilé un petit peu à une forme de force, d'énergie, de supériorité, de contradiction totale avec un sentiment de fragilité et de faiblesse. Et on imagine mal comment des hommes ont pu évidemment être victimes de violences de toute nature. J'ai lu également la double page dans Aujourd'hui, et c'est ça qui m'a passionné. Mais c'est un sujet qui au moins remettra de l'équité, parce que lorsqu'on parle des violences contre les femmes, très souvent, on n'admet pas que l'autre sexe peut en être victime également.
Jean-Paul Récapet.
Tout à fait. La violence, elle existe. Et le problème, c'est que l'homme, c'est quelqu'un d'imposant, comme l'interlocuteur disait, et on n'admet pas qu'il peut être victime. Et que voilà, et tout le système judiciaire de la société actuelle n'admet pas l'homme victime.
Caroline Pilas.
On connaît les violences abjectes faites aux femmes. Moi, la question que je voudrais vous poser, premièrement, est-ce qu'il y a eu une hausse supplémentaire de cette violence envers les hommes depuis la sortie des confinements ? Et ça se traduit comment en termes de violence ? C'est de la violence physique et psychologique ou plus l'un ou l'autre ?
Alors, avant de donner la parole à Caroline Pilastre, j'ai lu dans le dossier une chose incroyable. Une femme qui plante un coup de couteau en céramique dans le cou de son mari. Pour se défendre, il lui met un coup de poing et il est mis en examen pour violence volontaire sur conjoint. J'ai trouvé ça hallucinant. C'est à vous, Jean-Paul Récapet.
C'est le système judiciaire actuel où on n'admet pas la violence des... Enfin, on n'admet pas. On admet, mais on sous-estime. Donc, dès qu'une femme tape, mais madame, pourquoi avez-vous tapé ? On lui donne déjà des circonstances atténuantes.
Pour orienter par rapport à ma question, désolé Philippe, c'est plus de la violence physique que les femmes ont sur les hommes ou de la violence psychologique comme certains pervers narcissiques ?
Tout, en tant qu'écoutant, je peux vous dire, il y a même des pervers sexuels.
Wow.
Là, l'autre jour, j'avais un homme qui était agressé sexuellement par une jeune et jolie femme. Et il recevait des coups parce qu'il ne faisait pas son boulot.
Et le comble, c'est qu'on n'a pas le droit de rire, hein, tout
oui,
de même.
Donc c'est quelque chose qui va être extrêmement risible. Et voilà. Et alors que bon, il prenait des coups. Enfin, à l'origine, c'est une sexologue qui m'a appelé pour ce monsieur.
Boris Faure.
Oui, moi j'ai applaudi devant MeToo, devant Balance ton porc, parce que je pense qu'effectivement on avait en France un vrai problème de violence masculine qui était sous le tapis, et donc je me dis sans problème féministe pour ces combats. Mais c'est vrai que il y a un certain féminisme en France très radical, parfois trop radical, qui à un moment a semblé dire que l'essence masculine était en elle-même porteuse de violence. Et c'est pas, à mon avis, c'est pas ça la vérité. C'est comme vous l'avez dit, monsieur, les personnes peuvent être violentes. L'organisation sociale peut-être fait que parfois, souvent, les femmes sont victimes de violences, mais les hommes subissent aussi ces violences-là. Et je pense que à cet égard, je salue votre action et celle de votre association. Ça rétablit un petit peu la balance, si j'ose dire.
Et je vois, l'autre jour, on a même été contacté par une association de femmes qui sont perdues parce qu'ils ont énormément d'hommes qui appellent. D'hommes battus qui appellent, une association de femmes battues. Parce que les hommes ne savent pas où s'adresser. Il n'y a rien. Il n'y a aucune structure.
Mais on m'a souvent dit, je vais aller dans le tabou du tabou, excusez-moi, que souvent les hommes battus ne portaient pas plainte et régulièrement par l'humiliation que c'est,
bah oui.
et régulièrement se suicidaient. Est-ce que c'est une réalité?
Mais tout à fait, mais tout est fait pour. Vous pouvez pas. Déjà, c'est difficile en tant qu'homme d'aller porter plainte par une femme qui fait la moitié de vous en disant c'est elle qui me tape. C'est déjà difficile. Et en plus, quand vous rentrez dans le système pour le faire, personne ne vous croit. Vous allez à la gendarmerie, on se moque de vous. Vous allez au procureur, classé sans suite. Vous allez au tribunal, le dossier est classé. C'est la réalité.
Comme vous êtes permanent téléphonique de l'association SOS Hommes Battus, quel est le message qui revient le plus souvent?
Ils veulent protéger les enfants. Ils supportent tout pour protéger les enfants.
Oui.
C'est je supporte tout pour mes enfants avant tout. Bon, après. Et après, vous avez la justice qui vient casser le bonhomme en plus, quoi.
Moi, j'entends cette logique de la honte dont parlait Philippe à l'instant, avec ces hommes qui n'osent pas et qui vont même jusqu'à des extrémités terribles. Et ces papas qui cherchent à protéger les enfants avec une justice, c'est vrai, qui est déséquilibrée dans l'attribution, en fait. Hein, en cas de divorce, on sait très bien que la garde, 8 ou 9 fois sur 10, elle est attribuée aux femmes. Oui. C'est ainsi. Il y a peut-être une réflexion aussi à mener de ce côté-là.
Le mot de la fin, Jean-Paul Récapé, il nous reste une minute.
Et même maintenant, donc les femmes portent plainte systématiquement, enfin souvent, pour obtenir dans le cas de divorce, comme ça je porte plainte et je sais que je vais avoir un pont d'or. Je sais que je vais avoir la garde des enfants, la pension, je vais porter plainte. Même si c'est madame qui est violente.
Et c'est donc, un phénomène qui augmente?
Oui, oui.
Un peu partout, dans toutes les strates sociales, géographiques.
J'ai énormément d'hommes violents. Enfin, d'hommes qui sont violentés, qui sont accusés de violence.
Oui,
et la justice, voilà. Et c'est une question de gros sous et de garde des enfants.
Et c'est
au quart du temps.
Et vous avez beaucoup, par exemple, de fausses accusations de violence contre les hommes?
Oui, énormément.
Effectivement.
On crée, avec le système actuellement où la femme est violentée, enfin, je ne veux pas dire qu'on. On en parle beaucoup. Donc maintenant, c'est devenu un système pour toucher des sous. Je dis que j'ai été violenté, quoi. Ou pour avoir la garde des enfants.
Merci beaucoup Jean-Paul Récapet, trésorier et permanent téléphonique de l'association Hommes Battus, d'avoir parlé de ce sujet. Il y a un dossier très intéressant dans Le Parisien aujourd'hui en France, avec des éléments qu'on n'imagine même pas personnellement quand je les ai lus. Je dois vous avouer que j'ai été absolument effaré. Dans quelques instants, notre grand débat sur un autre sujet lourd. Montée de l'inflation, craignez-vous de vous appauvrir? Vous êtes 93,6% à dire oui. On va en débattre avec Daniel Verger, responsable études et recherches du Secours catholique Caritas France.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Boris Faure. C'est une étude OpinionWay pour Bonial. 48% des Français sont inquiets concernant leur pouvoir d'achat. 36% n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Et 37% disent ne pas arriver à vivre décemment. Les centres Leclerc, dans leur observatoire des nouvelles consommations, sortent une nouvelle étude. On apprend que 49% des Français se disent à 5 euros près lorsqu'ils font des courses. 72% des foyers les plus modestes et 56% des moins de 35 ans, soit 6 points de plus qu'il y a un an. et 42% déclarent ne pas vivre décemment, plus 3% il y a un an. 55% des Français n'arrivent pas à se faire plaisir, tandis que 61% n'arrivent pas à épargner. D'où notre grand débat, montée de l'inflation, craignez-vous de vous appauvrir ? Nous sommes en compagnie de Daniel Verger, responsable études et recherches du Secours catholique Caritas France. Daniel Verger, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Manifestement, c'est de plus en plus compliqué de vivre décemment en France.
Oui, c'est très clair. Ce que vous exprimez là dans les résultats du sondage le montre très bien. Nous aussi, on a fait un sondage récemment sur les personnes vis-à-vis de la pauvreté et qui montre que la moitié des Français estiment qu'il faut au moins entre 1100 et 1300 euros pour vivre à peu près décemment, c'est-à-dire finalement un petit peu au-dessus du seuil de pauvreté. Donc on voit qu'il y a là quelque chose d'assez cohérent, mais ça veut dire aussi que c'est plus de deux fois plus que ce que touche la plupart des personnes qui viennent au Secours catholique. Leur niveau de vie médian, c'est 537 euros, donc c'est moitié moins que ce seuil de pauvreté.
Ce qui est absolument fou. Philippe Bilger.
Daniel Verger, en écoutant ce sujet tout à fait nécessaire, je me rappelle une phrase de Jean Anouilh, un auteur que j'ai adoré longtemps, qui disait « La pauvreté, c'est se heurter à un mur ». Et dans les articles de journaux, depuis quelque temps, on voit de plus en plus une focalisation sur ce pourcentage important dont vient de parler Philippe. J'avais lu 40% des Français vivent dans des conditions difficiles, modestes. Est-ce que vous êtes amené vous-même, dans vos études et vos réflexions, à brosser le tableau le plus authentique possible de ce qu'il faudrait pour vivre décemment pour un Français?
Daniel Verger.
Oui, merci de cette question. C'est compliqué, hein, qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre décemment, parce que finalement ça dépend un peu de chaque personne.
Bien sûr.
Les personnes que l'on rencontre au Secours catholique sont toutes ou presque des personnes qui expriment avec force la difficulté de la vie quand on a trop peu pour se nourrir, pour se chauffer, pour acheter un petit peu de suppléments pour les enfants, et que on est amené. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu sortir un mur, c'est aussi surtout avoir une charge mentale extrêmement forte, c'est-à-dire être constamment obligé de faire des choix compliqués, voire des choix impossibles.
De compter,
exactement.
Tout le temps,
et accepter de pas faire un goûter pour l'anniversaire de son enfant parce qu'on a un peu trop honte de ce qu'on va pouvoir offrir, ou parce qu'ils vont voir que la maison elle a des travaux qui n'ont pas pu être faits. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être logé dans un hôtel parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir trouvé un logement et que finalement on est logé des nuitées d'hôtel, ce qui rend très compliqué le fait de faire de la cuisine, par exemple.
Caroline Pilastre.
Il y a une inflation bien réelle depuis la sortie des confinements. Avec la guerre en Ukraine, ça n'a rien arrangé. Il y a une augmentation sur le gaz, l'électricité, les produits de nécessité. On le sait tous. Rappelons certains chiffres. Il y a 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France. Ça aussi, c'est bien une réalité. Et le dire, ça n'est pas une démagogie, puisque je le rappelle également, le pouvoir d'achat est la cause majeure d'inquiétude des Français, et c'est pour ça qu'elle est ressortie dans tous les sondages pour cette présidentielle. Vous avez, en plus de toute cette précarité, la précarité liée à la santé, parce que beaucoup de Français, malheureusement, que ce soit
ne se soignent plus.
Les personnes très paupérisées ou même les classes moyennes qui se plaignent de plus en plus en vous disant « Vous savez, nous, on gagne trop pour obtenir des aides, mais à l'arrivée, on n'arrive pas à s'en sortir » parce qu'on a le droit justement à rien. Donc on doit faire des choix, et choisir, c'est renoncer en permanence. Donc moi, ce qui m'inquiète, défendant la cause du handicap et connaissant le sujet de la précarité justement dans ce domaine qui ne fait que s'amplifier et qui est également très angoissant, c'est comment allons-nous faire pour toutes ces personnes qui ne daignent pas se soigner parce qu'elles sont dans des choix, comme vous le disiez, Philippe, ainsi que vous, monsieur, permanents. Il faut... Quand on est locataire, payer son loyer, payer ses charges, se nourrir et en même temps vêtir. Parfois quand on a, oui mais ça encore j'ai envie de vous dire, se vêtir pour beaucoup de Français hein, c'est considéré hein, comme du superflu hein, malheureusement, mais la santé c'est quelque chose de primordial et vous avez des Français qui ne peuvent même pas aller chez le dentiste, on le sait depuis des années hein. Ça mène à plein d'autres causes majeures médicalement, donc voilà, moi je me dis hein, ça ne va pas faire en s'améliorant ce qui est en train de se passer au niveau de la grande pauvreté hein. Quelles seraient hein, les solutions à trouver hein, maintenant, dans le concret, pour essayer d'aider ces personnes en dehors des chèques énergie ou des chèques inflation, qui sont bien, mais dans une période temporaire, éphémère. On sait très bien que ça ne va pas pouvoir perdurer. Donc voilà, moi j'aimerais savoir, monsieur, qu'est-ce que vous proposez à ces personnes en termes de priorité pour arriver à assurer un peu le quotidien ?
Daniel Vergier.
Oui, alors, vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites sur la santé. Nous aussi, on le voit énormément sur l'alimentation, où s'il y a tant d'augmentation de personnes qui font une demande d'aide alimentaire, c'est bien parce que c'est une des façons de s'en sortir quand on a trop peu d'argent pour les autres dépenses. Alors, que faire ? Ben, en fait, il faut augmenter, non pas par des chèques spécialisés, mais il faut augmenter le revenu des ménages les plus pauvres, et ceci de façon significative. Nous, on demande que tout de suite, il puisse y avoir une augmentation, enfin, dès le début du nouveau gouvernement, une augmentation de 30% du RSA, ainsi que, d'ailleurs, une augmentation de l'ensemble des minima sociaux. Ça nous semble indispensable, justement pour faire en sorte qu'on soit moins dans la survie, mais un peu plus dans des choix qui resteront très compliqués, mais qui sont un peu plus abordables. C'est dommage, le gouvernement n'a augmenté que de 1,8% le RSA au 1er avril, qui est une date traditionnelle d'augmentation. C'est la première fois que ça a été augmenté depuis un an. 1,8%, c'est très loin de l'inflation sur les 12 derniers mois, qui était de 4,5%. Oui. Donc il faut faire beaucoup plus, et effectivement il faut le faire aussi pour tous les bas salaires, hein, quand toutes les personnes qui travaillent avec des horaires précaires, nous on voit beaucoup de femmes seules avec enfants qui travaillent, mais qui ne s'en sortent pas. Donc il faut aussi que ces salaires-là puissent être augmentés et qu'il y ait vraiment une incitation forte à l'augmentation de tous les bas salaires. Donc 30% pour le RSA, une augmentation plus large des minima sociaux et une augmentation aussi des bas salaires qui puissent être négociés rapidement.
Boris Faure.
Oui, on aurait souhaité que vous soyez candidat à la présidentielle, monsieur, parce que c'est vrai que les candidats à la présidentielle, et on ne va pas les citer, quand ils ont fait des propositions, il y en a un qui s'appelle Jupiter, il disait on va mettre au boulot les titulaires du RSA. Alors c'est bien de mettre au boulot des gens, mais alors comment on fait pour qu'ils se déplacent ? Comment on fait ? Il y avait, je pense, un vrai décalage entre ce que ressentent beaucoup de Français. Moi, je pense notamment à ces travailleurs pauvres qui malheureusement bossent et qui ne s'en sortent pas. Philippe, vous avez dit il y a une personne sur deux qui ne peut plus se faire plaisir, qui n'a plus les moyens de se faire plaisir.
55%, c'est même un peu plus.
Donc, oui. on est malheureusement sur des générations de gens qui sont déprimés. On organise la névrose. Si on ne se saisit pas de ce sujet, rapidement, on aura un troisième tour social. On aura de nouveaux gilets jaunes après la présidentielle. C'est évident.
Daniel Vergier.
Oui, alors vous avez raison. Il y a là un sujet qui est insuffisamment pris en compte, et en tout cas le fait d'augmenter les revenus de façon générale, c'est-à-dire pas sur des aides ciblées qui restent utiles, hein, bien sûr, en période d'urgence, mais faisons aussi confiance dans ce que les personnes peuvent faire, c'est-à-dire que l'avantage d'augmenter le budget général, d'augmenter les minima sociaux, d'augmenter les salaires, c'est que ça laisse les personnes choisir qu'est-ce qui est le plus important pour eux ou pour elles comme choix et comme dépenses prioritaires. Et ça, c'est essentiel de garder ce choix-là, ça fait partie de la dignité. Donc c'est pour ça qu'il faut augmenter les revenus de façon globale, enfin générique. Et par ailleurs, il faut sans doute travailler sur les dépenses contraintes qui sont trop élevées. En fait, si on a un tel écart entre, les ressources que l'on a au total et les ressources qui nous restent pour vivre, c'est parce que les dépenses contraintes sont trop fortes.
Philippe Bilger veut réagir.
Daniel Vergier, est-ce que lors de la campagne présidentielle, vous avez eu des relations et des dialogues avec tous les candidats ?
Alors, il est interdit d'en citer, Daniel Vergier, hein, pas de nom.
Non, justement. Tous les candidats, donc.
Je ne vais pas les citer. On a eu des dialogues avec beaucoup de candidats, pas tous les candidats, mais beaucoup de candidats qui ont accepté de nous recevoir ou qui ont souhaité nous rencontrer, effectivement.
C'était ça qui m'intéressait.
Caroline Pilas veut réagir aussi.
Oui, non, moi je voudrais faire un constat, monsieur, parce que déjà bravo pour votre travail, et puis on est 13 millions de bénévoles en France, quelle que soit la cause. Mais c'est vrai que la précarité mène à l'isolement. Et c'est ça qui est assez terrible, parce que non content que vous n'avez pas les moyens, mais en plus, vous n'avez plus de vie sociale. Donc en fin de compte, c'est le serpent qui se mord la queue, et vous avez de graves problèmes psychologiques pour essayer de vous sortir de toute cette situation qui est misérable.
Daniel Verger.
Oui, alors c'est tout à fait juste. Effectivement, on a tendance à se replier sur soi, ou en tout cas à éviter les contacts, et en particulier à éviter à inviter chez soi, quand on a la chance d'avoir un chez-soi. Et c'est pour ça qu'il me semble extrêmement important que, un peu tous ensemble, on travaille sur, finalement, sur le changement de regard. C'est-à-dire que cette stigmatisation qu'il y a contre les plus pauvres, et en particulier contre les personnes notamment qui touchent le RSA, elle est très fortement ressentie, et c'est ressenti comme une violence, ou en tout cas comme vraiment une blessure. Et donc, contribuer à se dire, ben non, au contraire, tendons la main et soyons solidaires, plutôt que de se rejeter les fautes aux uns aux autres, c'est vraiment le sens de retrouver les chemins de la fraternité. Au Secours catholique, on dit qu'il faut prendre parti de la fraternité, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des mesures politiques et structurelles à prendre, mais qu'il y a aussi tout ce travail de bénévole, tout ce travail de solidarité nationale.
Et l'autre, c'est soi, monsieur. Ne jamais l'oublier, en fait, quand les gens stigmatisent. Ils peuvent être déclassés du jour au lendemain.
Exactement.
Ça n'arrive pas qu'aux autres. Lèverez-vous à 18h40 de notre grand débat, montée de l'inflation, craignez-vous de vous appauvrir ? Vous êtes 93,9% à dire non. On se retrouve tout de suite avec Daniel Verger, responsable études et recherches du Secours catholique Caritas France.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Boliris Sport, notre grand débat. Montée de l'inflation, craignez-vous de vous appauvrir et vous êtes 93,8% à dire oui. Ça réagit au 0826-300-300. Bonsoir Philippe.
Bonsoir les vraies voix, comment allez-vous?
Ça va très bien. Est-ce que vous, le sujet est lourd, est-ce que vous craignez de vous appauvrir?
Bah ouais, je fais partie de ces 93% et pourtant je suis dans la classe moyenne.
Et ouais.
Je vais vous poser une question indiscrète, c'est quoi la classe moyenne? Parce que la classe moyenne, c'est un concept qui est assez vaste, hein.
Ben, en fait, vous avez raison. Le pire, c'est que vous avez raison, mais moi, je vais vous dire, voilà, moi, je suis marié, je suis papa de deux filles. En dehors de mon cas, oui, moi, déjà, bien sûr que j'ai peur du lendemain, mais moi, aujourd'hui, on s'accroche. Bon, de toute façon, moi, je pense que c'est une histoire de salaire. De toute façon, je pense que les salaires aujourd'hui, concrètement, on va pas se mentir. Et moi encore, on va dire que je suis... Allez, on va dire, entre guillemets, on fait tout pour s'en sortir, mais c'est dur. Mais quand je vois des gens aujourd'hui avec un SMIC, dites-moi comment on peut vivre avec un SMIC aujourd'hui. Et moi, il y a surtout, je vais parler pour mes deux filles, et ça concerne beaucoup de notre jeunesse française. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Moi, je vois, elles font des études tous les deux. Elles sont à Toulouse. Donc, vous, c'est une ville qui vous tient à cœur, monsieur.
Oui, oui.
Hein, on va dire. Donc, oui. Vous voyez, j'ai deux gamines qui triment. Elles font des boulots de merde. Parce qu'il faut faire les études. Nous, on est là à aider. Mais beaucoup de parents font ça. Mais vous savez, nous, on compte dès le 15, on compte. Hein. Et pourtant, mais moi, aujourd'hui, franchement, je suis très inquiet pour cette jeunesse. Je suis très inquiet pour... Je vais serrer les boulons avec mon épouse pour arriver jusqu'à la retraite, mais franchement, moi je vois, et je vais vous faire une remarque et après je vais vous laisser la parole parce que voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais je vais vous donner un exemple. Moi, ma maman, elle a élevé 4 enfants dont je fais partie toute seule, d'accord?
Oui.
Avec un salaire.
Oui.
À l'époque, c'était le franc.
Oui.
D'accord? Je vais vous dire un truc. Et pourtant, elle a trimé ma mère. Et bien, j'avais l'impression que je vivais mieux quand j'étais à cette époque-là. Alors certes, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait aujourd'hui. Mais ma mère, avec un salaire de 7000 francs, elle a élevé 4 gosses. Aujourd'hui, vous prenez une famille, comme les gilets jaunes que vous avez cités tout à l'heure. Moi, j'y suis allé parce que je voulais voir ces gens-là. Le nombre de femmes que j'ai vues isolées, à faire des métiers à temps partiel, à élever des gamins qui, des fois, n'avaient même pas ce qu'on appelle, quand il y a des séparations, j'ai même perdu le terme. Là.
Les divorces.
La pension alimentaire.
Les
pensions alimentaires. Mais on se rend même... Moi, aujourd'hui, je me pose une question. Est-ce que les gens qui sont au pouvoir depuis plus de 20 ans se rendent compte, entre tout ce tout l'état de la société et ce qui se passe aujourd'hui. Là, les gens, heureusement qu'il y a des gens du Secours catholique, heureusement qu'il y a des bénévoles du Resto du Cœur, heureusement qu'il y a des voisins qui encore se trouvent le moyen de parler. Enfin, moi, je vous fais un constat de la société aujourd'hui, mais... Et encore, je me suis préservé parce que je m'y suis à l'écart. J'ai fait des sacrifices parce que je veux me protéger de tous les sujets que vous avez abordés, là, la violence, etc. Mais moi, je vous dis, on n'y est pas loin. Je vous l'ai dit une fois sur votre antenne. Oui. Le troisième tour social, il sera après l'élection de Macron, parce qu'il va passer. Et vous verrez ce que je vous dis, on n'y est pas loin. On est au bord du précipice.
Alors
là, tout ça, toutes les aides, c'est un pansement sur une jambe de bois. Moi, j'ai ma fille aînée, hein, et on lui a accordé des aides suite aux différents trucs de Macron. Et ben là, vous avez la CAF qui lui a demandé de rembourser des aides parce qu'ils se sont plantés. Ma fille, elle gagne 450 balles par mois.
Avec un job étudiant. Alors, merci beaucoup, Philippe de Fontainebleau. Vous avez cité le nom d'un candidat, donc je cite le nom des 11 autres. Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean Lassalle. Et, désolé, il faut respecter les règles, mon cher Daniel Verger. Raison. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Philippe, Daniel ?
Bah, je crois que
c'est poignant. Philippe, hein.
Oui, exactement. Ça montre bien la difficulté que beaucoup de familles peuvent ressentir. Je voudrais surtout pointer le fait qu'il a dit que ses filles étaient étudiantes et c'était difficile. Et ça, c'est vraiment ce qu'on constate. On a beaucoup d'étudiants qui sont en difficulté, qui viennent voir le Secours catholique ou d'autres associations, en particulier pour avoir des aides alimentaires, mais pas uniquement, des aides aussi pour tout simplement faire face aux dépenses essentielles. Nous, on a vu un centre d'abandon d'études durant cet hiver. Donc là, il y a un vrai problème. Alors évidemment, quand on peut trouver un petit boulot, ça permet de tenir, mais c'est parfois au détriment de la qualité de ce qu'on peut faire comme études. En tout cas, la pauvreté étudiante, c'est vraiment quelque chose qu'on constate aussi monter fort.
Philippe Bilger voulait dire quelque chose, Boris Faure aussi, rapidement.
Voulais... Oui, très vite, j'ai été un peu étonné, et peut-être que c'est justement... Une des dérives dépréciatives d'aujourd'hui, c'est que ça n'est plus seulement la pauvreté qui fait peur, mais la dégradation du niveau de vie, même quand on est au-dessus, quoi. Daniel Verger me le confirmera sans doute. On a peur même quand on a un niveau de vie qui n'est tout de même pas catastrophique par rapport à tant d'autres.
La classe moyenne est de plus en plus moyenne inférieure, Daniel Verger ?
En tout cas, elle a de plus en plus de la crainte sur l'avenir, ça c'est vrai, la précarisation, c'est quand même l'incertitude par rapport à l'avenir. Alors sans doute que le contexte, disons géopolitique, sanitaire, etc., joue dans ces derniers mois, mais c'est aussi une réalité assez forte que l'on retrouve, et là je crois qu'il y a vraiment une interpellation pour nous tous. Finalement, la protection sociale, elle a voulu, au sortir de la guerre, où on n'était pas plus riche, mais elle nous a promis, par le fait d'être solidaire, de se libérer de la peur du lendemain. Je crois vraiment qu'on a retrouvé les chemins pour se libérer de la peur du lendemain, sans doute par plus de solidarité, mais aussi par des innovations en termes de rencontres et de pouvoir compter les uns sur les autres.
Boris Faure.
Oui, on a beaucoup raillé les Gilets jaunes pour leur violence notamment. Je crois qu'en réalité, on est passé à côté du message de cette France en colère qui était effectivement le pouvoir d'achat, l'appauvrissement. Et dans le cas de notre auditeur, ce qui est très triste, c'est que finalement la précarité se transmet. C'est-à-dire il a ses filles qui sont obligées elles-mêmes d'avoir des emplois certainement précaires, sous-payés d'une certaine manière. Moi, quand j'entends parler d'emploi à 450 euros, je suis syndicaliste, je dis non, quoi. C'est juste pas possible. C'est des emploi de survie, ce n'est pas possible dans la France de 2022. Donc voilà, monsieur, ce n'est que des mots, mais toute ma solidarité avec vous.
Daniel Verger, le mot de la fin ?
Le mot de la fin, c'est sans doute de se dire que il faut pouvoir, comme je l'évoquais, changer un peu notre regard sur les personnes les plus en difficulté. C'est très très important pour elles de se sentir accompagnées, de se sentir aussi avec la possibilité de demander un coup de main et de savoir que la réponse sera positive. Déjà, si on arrive à faire ça, ça sera quand même une bonne chose. Et ça permettra de passer des moments qui seront difficiles. Je pense qu'on va vers des temps assez difficiles, mais soyons solidaires les uns avec les autres. Ça permettra de passer ce cap.
La merci. Considération humaine.
Exactement. Merci beaucoup, Daniel Verger, responsable études et recherches au Secours catholique Caritas France. Verdict sur Twitter, le grand débat, montée de l'inflation, craignez-vous de vous appauvrir? Et vous êtes 94,1% à dire oui. Alors, on va conclure avec un sujet plus léger, les vraies voix. Est-ce que vous aimez le vin de Bourgogne ?
Ah oui.
Eh bien, c'est ah avec oui. vous, mon cher Frédéric Brindel.
Bonsoir, je vous emmène dans les vignes.
Oui.
Oui. Vous connaissez François Labbé ? Alors, il a un rôle qui est vraiment absolument rêvé. Il est le président de la Fédération interprofessionnelle des vins de Bourgogne. Et il va nous annoncer une bonne nouvelle, parce qu'on en a besoin.
Ça fait du bien,
en
oui.
ce moment. Bonsoir, François Labbé.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Alors, nous avions Bonsoir, tous madame. Peur. Il y a eu cette vague de froid. Vous avez anticipé et vous pouvez nous affirmer, cher François Labbé, que toutes les vignes de nos Bourgognes favoris ont passé le cap. Est-ce qu'on est sûr ? Est-ce que, oui, ça va le faire ?
Alors, à aujourd'hui, quasiment oui. On ne sait pas de quoi demain sera fait, néanmoins. Oui. N'oublions pas que jusqu'au Saint Glas, c'est-à-dire quasiment jusqu'à mi-mai, il y a le risque de gel tardif. Bien, Chablis a été relativement touché quand même. On parle de 20-25% de vignes touchées. Chablis, je rappelle, c'est la partie nord de la Bourgogne qui viticole, qui s'étend sur trois départements, Yonne, Côte d'Or et Saône-et-Loire.
Oui, on rappelle qu'on ne compte pas la Nièvre parce que c'est pas le même périmètre, hein, c'est pas le même cépage,
exactement.
C'est ça. Hein.
C'est pas à cause de Mitterrand.
Ouais, non, pas vraiment. C'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas voulu, je ne sais pas. Non, c'est historique. Les vins de la Nièvre font partie des vins de Loire. Voilà. La Bourgogne viticole, c'est du Pinot Noir et du Chardonnay essentiellement, récoltés sur trois départements. Alors, la différence majeure avec le gel de l'an dernier, c'est que le gel a duré 3 jours, qu'il était un petit peu plus tard au mois d'avril et que la végétation était plus en avance qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que eh bien, les dégâts ont été plus importants. La nuit de dimanche à lundi que nous avons vécu nous a effrayés. Il faut pas le nier. Mais le résultat est que il y a pratiquement peu de dégâts en Côte d'Or et en Saône-et-Loire, un petit peu plus à Chablis.
Les vignes étaient moins fébriles, mais ça joue à vous entendre, ça joue à peu de temps parce que l'année dernière, on est une semaine après, donc
oui, c'est absolument. Ça. Hein. Ouais, on a une semaine après et on a une semaine d'avance au niveau de la végétation, donc ça se joue à quelques journées.
On est sauvés.
Effectivement, ouais. Voilà. Et pour nous, il est très très important que nous ayons une récolte normale en qualité, au moins normale en quantité, parce que les vins de Bourgogne se vendent très bien en France et dans le monde entier, et aujourd'hui nous souffrons d'un déficit de volume à offrir à nos bons clients.
Ça veut dire qu'il y a plus de demandes que d'offres, ça veut dire inflation plus la hausse des prix que tout le monde subit avec le coût des matériaux, etc., etc. Donc, ça veut dire que ça va être plus cher.
Oui, ça va être plus cher. Nous savons raison garder, néanmoins. Vous savez, les
je ne vous dis pas la tête que fait Boris Faure. Vous dites le vin de Bourgogne va être plus cher. J'ai l'impression qu'il est dépité, là.
En plus, lui, il marche au Nuit Saint-Georges.
Hein, il a bien raison. C'est une très jolie ville dans laquelle je suis né il y a quelques années. Donc, je ne peux être que d'accord avec lui. Non, les hausses qu'on va répercuter, évidemment, sont les hausses de matières premières, parce que les bouteilles coûtent beaucoup plus cher, les capsules coûtent beaucoup plus cher, les bouchons, les cartons, etc., etc. Non, les vignerons bourguignons et les metteurs en marché bourguignons savent être raisonnables, et ça n'est pas parce que quelques grands crus défraye la chronique quant à leur prix astronomique que la Bourgogne est chère. La Bourgogne, je rappelle que 50% de la Bourgogne vaut entre 0 et 10, 11 euros la bouteille.
Voilà. Bon, alors, vous avez un appel au secours, Boris Faure, allez-y.
Je voulais faire la promesse solennelle de ne boire que du Bordeaux dans l'année qui vient, parce que je suis complètement solidaire des variables climatiques, ayant un oncle qui est viticulteur, non pas malheureusement en Bourgogne, mais à Châteauneuf-du-Pape, mais vous voyez, Châteauneuf et soutient les bourguignons.
Ah bah justement, on va faire réagir Philippe Biligère, qui aime bien le vin de Bourgogne, je crois, en particulier le vin de Pape.
Le Bourgogne. mais on n'en boit pas assez. Et je voulais demander à.
Ben, c'est normal, on nous demande de le boire avec modération, non, Philippe, c'est pour
c'est,
ça.
C'est pas mais non, oui. la modération n'est pas mon fort, Frédéric, vous l'avez compris.
J'ai tout essayé, Philippe. Hein.
Ouais. Mais est-ce que ça pourrait aller le Bourgogne avec les tripiers dont on parlait hier?
Oui,
vous
oui,
qui
parce
êtes
que parce que oui, parce...
distingué.
Ah bon, voilà, parce que je vous fais deux journées totalement, totalement culinaires. Alors, ça va les produits tripiers, hein, d'une manière générale.
Bien sûr, oui. bien sûr. Moi, je vois très bien, je vois parfaitement avec des tripes. Sans qu'elle soit trop que bon, l'accompagnement soit trop puissant, mais je vois très bien un vin rouge fin et élégant du style Savigny-les-Beaunes ou de la Côte Chalonnaise ou style Mercurey par exemple.
Ah
oui. Voilà, ça serait parfaitement.
On se retrouve quand
vous nous mettez-le à la bouche.
Alors, je vous le ramène, François Labbé,
un message à la direction de Sud Radio, Patrick Roger, Bruno Dubois, si vous nous écoutez. Une délocalisation d'émissions dans une cave de vin de Bourgogne. Je suis partant, je l'avoue. Philippe Bilger, je sais, est partant. Tiens, Boris Faure, même si c'est pas déjà
avec Caroline,
Pilate. Et
je viens
aussi, Fred.
Oui, je viens d'avoir une info, Bruno Dubois est déjà dans la cave.
Oui, mais c'est normal, c'est du bon bois pour faire de bons fûts de chêne.
Et il y en a un qui ne boit pas pour nous ramener.
Non, mais on prendra le TGV, là, mon cher Philippe Bilger, parce que là, on dormira sur place.
Je pensais à vous, Philippe. Vous auriez pu vous sacrifier.
Je vous rappelle que mon prénom, c'est Philippe et pas Sam, mon cher Philippe Bilger.
Et évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour vous dire si ce sera un bon cru cette année, les vins de Bourgogne. Donc, on laisse passer les saints de glace, etc. Et puis, nous rappellerons, bien sûr, François Labbé pour nous en dire plus.
On salue François Labbé, président de la Fédération interprofessionnelle des vins de Bourgogne. Tout de suite, nos deux vraies voix du jour. Béranger de la Dordogne, il y a de très bons breuvages là-bas aussi, tiens, je pense le Pécharmant, le Mont-Basillac et Mickaël de Levallois. Là par contre, les vignobles de Levallois, il n'y en a pas beaucoup. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Ils sont restés avec nous, Caroline Pilastre et Boris Faure, et nos deux vraies voix du soir, tiens, un département alors excellent pour sa nourriture, pas seulement pour les breuvages rouges, blancs ou rosés, mais pour le terroir, le foie gras. Direction la Dordogne, bonsoir Béranger.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tout le monde.
Bon là j'ai mis tout le monde en appétit, mais à 19h08, c'est pas trop hérétique. Et direction, là il y a un peu moins de terroir, le 92, bonsoir Mickaël de Levallois.
Bonsoir à tous.
Alors on va commencer, Levallois c'est 92, Dordogne c'est 24, on va commencer avec vous Béranger. On va essayer de faire les deux débats qu'on a fait, donc rapidement. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a une montée de l'antisémitisme en France?
Alors, objectivement, non, il n'y a pas une montée de l'antisémitisme dans l'ensemble de la société. Là, on a vu, il y a eu deux épiphénomènes, il y a eu des tags antisémites dans les toilettes de la fac de Nanterre. Je veux dire, c'est quand même, si ça, c'est pas du micro-événement, expliquez-moi ce que c'est. Bon, et la deuxième chose, alors je reprendrai pas tout ce qu'a dit un de vos précédents intervenants, mais le malheureux Jérémy qui s'est fait pousser probablement, qui a fui des agresseurs.
Alors
qui
d'après la vidéo, moi j'ai vu la vidéo, il n'est pas poussé, il part en courant et il ne voit pas le tramway qui arrive parce qu'il est paniqué et malheureusement il se fait renverser par le tramway. J'ai regardé, c'était très dur la vidéo en entier, je l'avoue.
D'accord, mais voilà, par conséquent, parler de tout de suite d'un acte antisémite, effectivement, à quelques jours de la présidentielle, moi ça me dérange toujours, en fait, voilà, c'est pas, j'ai pas l'esprit spécialement complotiste, mais néanmoins, voilà, moi je trouve pas que, pour le moment, on est vraiment dans l'acte antisémite.
Alors pour le moment, je rappelle que le procureur de Bobigny a dit que l'acte aggravant d'antisémitisme n'était pas retenu pour le moment. Hein. Je le dis, on l'a annoncé il y a à peu près une heure et demie dans Les Vraies Voix. Mickaël, est-ce que pour vous, il y a une montée de l'antisémitisme en France?
Non, pas dans toute la société, mais c'est vrai qu'au niveau des faits, je pense que ça augmente quand même. Au niveau des statistiques, on verra les statistiques sur 2021, je crois. Je ne sais même pas si elles sont sorties ou pas. Mais
je ne sais pas si elles sont sorties, je ne crois pas.
Mais non, je pense pas dans toute la société, mais c'est vrai quand même, il y a quand même des faits, quoi. Il y a des tags, il y a des agressions, etc. Et donc, je pense que oui, c'est pas normal, quoi. Après, pour l'instrumentalisation, le problème, c'est toujours pareil, quoi. Moi, j'ai l'impression que les médias, entre guillemets, nous présentent les choses comme des faits divers à chaque fois, et puis au final, on découvre le poteau rose ensuite, quoi. Donc, bon, il y a eu l'affaire Ilan Halimi, il y a eu l'affaire Mireille Knoll, il y a eu l'affaire...
Sarah Halimi,
Sarah Halimi aussi. Donc oui, il y a eu pas mal d'affaires, quoi. Donc bon, je pense que c'est pas dans toute la société, mais il y a quand même des faits qui augmentent.
Caroline Pilastre.
Je le redis, c'est pas une montée pour moi.
C'est
de la résurgence de l'antisémitisme. Il y a une situation, un phénomène endémique dans notre pays. Pour en revenir à l'affaire de ce pauvre Jérémy Cohen, pourquoi on a parlé d'antisémitisme ? Tout simplement parce qu'à côté de son corps, lorsqu'il a été renversé par le tramway en fuyant ses agresseurs, 15 contre 1, hein, je tiens quand même à le dire. Donc même si le délit d'antisémitisme n'est pas prouvé par la suite, quoi qu'il en soit, c'est une affaire terrible en termes d'agression. Et il y a eu la mort d'un jeune homme qui a essayé de fuir justement 15 personnes. Oui. Parce qu'on a retrouvé à côté de lui une kippa qui était ensanglantée. Donc on ne sait pas s'il l'a portée au moment où il s'est fait agresser et si ce serait la cause, ou si la kippa il l'avait dans la poche et qu'elle serait tombée au moment où il a été écrasé clairement par le tramway. Mais quoi qu'il en soit, il y a une vraie banalisation avec l'antisémitisme comme avec le racisme, hein, parce que par extension on peut parler de ça, sauf que là on parle d'antisémitisme. Et moi je n'aime pas opposer, si vous voulez, les situations. C'est pour moi autre chose qu'un fait divers. On est en train de parler d'un jeune homme, d'un humain. Quoi qu'il en soit, il va falloir que toute la clarté sur cette affaire soit faite, parce que ce qu'on peut se poser aussi comme question, c'est pourquoi est-ce qu'on en a parlé au bout d'un mois et demi ? Pourquoi ça ressort maintenant ? Alors, moi, je veux
bien... Parce que la famille a été mettre des prospectus dans les boîtes à lettres et que des gens ont réagi, ont sorti la vidéo, etc.
Oui, mais ça n'a intéressé personne pendant un mois et demi, alors que ça s'était déjà produit. Et il n'y a, pour moi, pas de corrélation avec le fait que le premier tour ait lieu dans quelques jours. Cette affaire aurait dû sortir le 17 février. Et pourquoi elle est sortie aussi ? Parce qu'un candidat à la présidentielle a été prévenu par le papa de Jérémy de ce qui s'était passé.
Et ça
a
été le premier. La vidéo est devenue virale.
Exactement, à en parler. Donc, il ne faut pas imaginer que ça sort maintenant pour essayer de mettre à mal tel ou tel candidat ou profiter à tel ou tel autre candidat. Mais on a le droit quand même de se poser des questions sur l'agressivité, sur l'insécurité ambiante que nous pouvons tous vivre. Parce qu'en dehors de cette affaire, il y a le fait de sortir et d'avoir peur de sortir et d'être face à une troupe
qui est une
et une meute
dans nombre de quartiers. Boris Faure.
Oui, moi, la question de savoir s'il y a plus d'antisémitisme aujourd'hui qu'hier, j'aime bien regarder généralement ce qui se passe ailleurs. Et c'est vrai que je dirais que malheureusement, il me semble qu'en Europe, l'antisémitisme monte. J'en veux pour preuve une statistique. En Allemagne, on avait en 2020 4 actes antisémites par jour. C'est considérable. À tel point qu'en 2020, personne ne s'en rappelle, mais il y a eu en 2020 une déclaration de tous les États membres européens pour dire attention, il y a effectivement une résurgence ou une augmentation du nombre d'actes antisémites en Europe. Donc je pense que malheureusement, on est sur quelque chose, un phénomène global.
On passe au deuxième sujet. Béranger, pour notre grand débat, montée de l'inflation, craignez-vous de vous appauvrir ? Vous, la Dordogne, c'est un département rural. Pour travailler, je pense que les transports en commun ne doivent pas être hyper nombreux. Et est-ce que vous vivez des problèmes de pouvoir d'achat en zone rurale ?
Non, mais ça, alors, rien que de poser la question en ce moment, enfin bon, là, je fais un peu d'ironie, mais c'est une blague.
Oui.
C'est-à-dire que.
À 2 euros le litre d'essence, c'est vrai.
Exactement. Et c'est-à-dire que plus que jamais, la question se pose. C'est-à-dire que quand vous. Par exemple, là, vous avez fait un sondage tout à l'heure sur votre antenne. Il y a 93% des gens qui ont peur de la pauvreté, selon le sondage.
On est presque à 93,8 maintenant.
Exactement. Et dans le même temps, on a quand même 30% de gens que je qualifierais pas de blaireaux qui seraient prêts, je parle au conditionnel, à voter pour.
Alors, faut pas parler, pas citer de nom.
Voilà. Je cite pas de nom. J'ai compris tout à l'heure que vous alliez vous retaper toute la litanie.
C'est ça. Donc je peux. Voilà.
Épargnez-lui ça, s'il vous plaît.
Je vous l'évite, Philippe. Et du coup, comment on peut avoir 93% des gens qui ont peur de tomber dans la pauvreté et 30% des gens qui voudraient voter pour le président sortant. C'est délirant. Donc les sondages d'ailleurs devraient être interdits dans les dernières deux semaines. C'est totalement. C'est
la fabrique. Je crois que c'est le cas en Italie. Pendant deux semaines ou trois semaines ou un mois, il me semble, avant une élection, les sondages sont interdits, il me semble.
Exactement. Donc les sondages-là, en tout cas, pendant les 15 jours précédents, le premier tour devrait être absolument interdit parce que c'est de la fabrique de l'opinion, c'est de la fabrique du consentement, c'est de l'ingénierie sociale. Et là, je dis bien aux gens qui pensent encore pouvoir voter pour un président sortant, réfléchissez bien, parce que moi, personnellement, je connais des gens qui ont voté pour un certain président 2017. Sur tous ceux que je connais, il n'y en a pas un seul qui va remettre le même bulletin dans l'urne. Et là, on est dans les sondages à 30% pour ce type. C'est du délire.
Alors, on va donner la parole, parce qu'il ne nous reste même pas 4 minutes. Il faut que Mickaël et les vraies voix réagissent. Mickaël, vous avez peur de la pauvreté, vous ?
Ben, je la côtoie quand même au quotidien. Bon, malgré que le Valois, on peut en dire ce qu'on veut, et je sais que c'est une ville quand même particulièrement riche, il y a quand même le côté au niveau de la Porte d'Asnières qui est pas si riche que ça, donc les classes populaires, je connais un petit peu. Moi, personnellement, bon, ça va. Mais
vous, à Paris, contrairement à Béranger en Dordogne, vous avez des transports en commun, par exemple,
pour se
déplacer.
Mais même au-delà de ça, j'ai envie de dire, pour moi, hein, le problème est plus structurel, etc. Donc même moi, je vais pas citer le nom ni rien, mais je pense que c'est lié en fait à l'Union européenne et je pense que oui, faudrait en fait que les gens réfléchissent, que les gens se posent les bonnes questions et qu'ils se réveillent, quoi, tout simplement, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas possible. Et comme disait un de vos invités, je crois, tout à l'heure, il va y avoir un troisième tour social. Moi,
c'était Boris Faure qui disait.
J'ai manifesté depuis le 17 juillet, je suis en manifestation. J'ai fait les manifestations de Florian Philippot, pardon, et des Gilets jaunes. Et oui, les Gilets jaunes, bah, ils veulent beaucoup, il y en a beaucoup qui veulent s'abstenir, mais malheureusement, moi, je comprends l'abstention, mais dans l'autre sens, je me dis, de toute façon, ça ne mènera à rien, en fait, à part dans le mur. Donc,
on va faire réagir les deux vraies voix, parce qu'il nous reste deux minutes. Caroline Pilastre, le troisième tour social, ça vous fait peur ?
Ça me fait peur et je suis persuadée qu'il va arriver. Ah oui, complètement. Il y a une telle désespérance, il y a une telle résignation dans notre pays, à tort ou à raison parfois, que c'est ce qui va se produire, quel que soit le candidat arrivant à la plus haute marche du pouvoir dans moins d'un mois. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'il y a une question, évidemment, liée à l'ubérisation, la précarisation liée à la mondialisation. On nous parle régulièrement de souveraineté nationale, de relocalisation. Ça va, Philippe ?
Oui, ça va.
Ok. Mais là-dessus, oui, il faut certainement revoir des chartes et dire qu'il n'y a pas de grande précarité dans notre pays, c'est totalement hors sol. Et je pense que la problématique est là, c'est qu'une partie des politiques et une fois de plus, quel que soit le bord confondu, ne se rend pas compte de ce qui est en train de se produire et qui date d'ailleurs de bien avant les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont le phénomène latent suite à toute cette paupérisation. Souvenez-vous, ça a été quoi ? À cause de la hausse du carburant initialement.
Et qui était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui,
mais
d'ailleurs.
Mais évidemment. Donc là, avec la guerre en Ukraine, on est parti pour des jours assez terrifiants pour nous tous, qui sommes la population française et qui ne font pas partie des élites, comme on peut l'imaginer,
Boris Faure,
avec la stigmatisation.
En 40 secondes, parce que notre amie Caroline a fait du woman's planning.
En 40 secondes, je pronostique sur les législatives un vote sanction. C'est-à-dire que pour une fois, à mon avis, on n'aura pas une majorité automatique pour la présidente élu. Ou le président élu. Il n'y aura pas d'automaticité. Il y aura, à mon avis, quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et effectivement, le troisième tour social, pourquoi ? Parce qu'on n'aura pas eu, pendant cette campagne, de contrat social passé entre les candidats, quels qu'ils soient, et l'électorat, le pays réel.
Merci beaucoup, Béranger de Dordogne et Mickaël de Levallois. Merci, Caroline Pilastre et Boris Faure. Maintenant, c'est les vraies voies de l'emploi avec vous, mon cher Frédéric Brindel.
Et un sujet qui s'inscrit dans la continuité de ce que vous venez d'évoquer. Le plein emploi, chimère ou réalité ? Nous nous poserons la question avec toutes les équipes du Réseau National de Mission Emploi du directeur général, Jérôme Laverny, qui est avec nous.
Notre ami Jérôme.
Bien sûr, des invités, Nicolas Leroy du groupe Fiducial. Nous aurons Jean-Christophe Répond également de la CAPEB et Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force Ouvrière, qui nous donneront leur point de vue.
Eh bien, c'est tout de suite avec vous, mais en attendant, Philippe Rossi, Stéphane Moller pour votre patrimoine, ses conseils de famille.